Allez, on y va. Je vais couper ça, je suis pas DJ, hein, je coupe ça à l'arrache. C'est criminel de couper une musique, mais je suis en train de discuter avec les amis là, avec lesquels on travaille sur MVP, votre émission bimensuelle sur le monde du travail et de l'emploi qui revient là tout à l'heure, à 12h, et du coup, j'ai pas vu le temps passer. Ça va, vous ? La classe Wasp ? Attends, excusez-moi, je vois des nouvelles dans le chat qui réjouissent. Wasp écrit petit message pour vous dire que je suis trop heureux. J'ai une tribune que j'ai co-signée qui a été publiée dans Le Monde, édition de dimanche lundi. Moi qui lis ce journal depuis des années, c'est fou. Voilà une petite émotion de partager ça avec toute la commu. Mathilde Etienne, du coup, Wasp, sur quel sujet cette tribune ? Hyper intéressant. Merci John Tou pour le 9e mois d'abonnement. Merci Adrien pour le 30e mois. Merci Figolu pour le soutien. Merci Jurisquet. Merci Looping Roison. La Bretagne est là. On parlait de Bretagne tout à l'heure. J'ai rencontré un. Je me suis rendu compte que dans le bâtiment où je suis ici, il y avait beaucoup de Bretons. Varum pose la question Michou cet après-midi. Bah, écoutez, j'attendais l'officialisation par Michou, mais je me rends compte qu'il ne communique pas beaucoup sur Twitter. Donc bah, allons-y, oui. Oui, allez. Bon, les modos vont être en PLS parce que je l'ai dit à personne. C'est annoncé ? Ah, mais il était temps ! Bah, où ? Je suis allé sur son compte X Twitter, j'ai rien vu. Il a dit. Il aime pas trop. J'ai l'impression qu'il n'est pas trop fan de Twitter, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Il a dit ce matin en live. Ok, d'accord. Ah, il a dit sur son compte secondaire. Il a un compte caché. Attends, fais voir. Ah, bah oui. Ah, oui. Ok. Alors, attendez, je suis pas. C'est mon setup du mercredi, c'est pas mon setup habituel. Est-ce que je peux vous le montrer, ça ? Oh, incroyable. Donc ça, c'est sur un compte secondaire de l'ami Michou sur Twitter/X avec son programme du jour, puisque je crois qu'il est sur combien de jours de live ? Une semaine de live ? C'est quoi, une semaine de live ? On est presque sur un quadruple stream, en fait, aujourd'hui. Combien de temps il stream ? Une semaine pour fêter ses 10 millions d'abonnés sur YouTube ? C'est une semaine ? Une semaine, c'est ça. Et donc, programme du jour, podcast ce matin, le tremplin, séance MMA. Bizarre, j'ai pas été invité. 13h30, en même temps, je serai en plein MVP. On va en parler dans un instant. 13h30, la télé cuisine, séance gaming, 15h, 18h, 30 secondes pour nous convaincre, featuring Samuel Etienne. 20h, battle streamer, featuring Samuel Etienne. Ah oui, le vieux là, le bouseux, le breton, j'adore, Catsup, qui est venu dans Simplay il n'y a pas longtemps, et Dwagby, avec qui j'ai passé du temps à Marseille récemment, que des amis quoi. Ça va être génial, ah c'est cool. Et on termine à 23h, et éventuellement après, il y a repas plus soirée, featuring invité. Alors le problème c'est que moi je retrouve le lendemain matin très très tôt aux aurores ma famille, enfin je prends les transports pour aller rejoindre ma famille qui est en vacances, qui est partie il y a quelques jours. Donc est-ce que je resterai ce soir au dîner, je sais pas ça. Voilà. 4 streams aujourd'hui, puisque revue de presse ce matin, on va commencer les articles très très vite parce que à midi je serai obligé de passer à MVP, donc je vais essayer de pas être trop bavard, mais en même temps il y a trop de choses à se dire. Donc revue de presse ce matin jusqu'à 12h, MVP, ma vie pro, mon émission bimensuelle qui explore tous les univers professionnels, les métiers, pour que ceux qui se posent des questions sur leur avenir, soit parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils cherchent leur voie, ou soit parce qu'ils bossent déjà mais qu'ils ont envie un petit peu de se réinventer professionnellement, donc MVP à 12h, spécial métier de la mort, tadam ! Bah ouais, parce qu'en fait c'est la Toussaint qui approche, et on a fait une spéciale métier de la mort, alors on va essayer de la rendre la moins sinistre possible. Mais en fait, les métiers en lien avec la mort, il y en a plein, tous les métiers médicaux déjà, mais médecins, infirmiers, évidemment tout ce qui est obsèques, accompagnement des familles, gardien de cimetière, notaire. Eh oui, notaire. Le notaire, il est confronté à bien des moments de la vie, de la naissance au mariage, et les contrats de mariage, en passant par les successions. Voilà. Donc, en fait... à ne pas confondre avec les métiers de l'amour. Oui, bonne remarque de Soul Caribou, tout à fait. Voilà. Donc, on a ce MVP à 12h jusqu'à 14h30, 15h. Et puis, en passant, je vous signale qu'à chaque MVP, donc c'est deux fois par mois, on a un invité qui n'est pas en lien avec la thématique du jour, voilà, qui vient témoigner de son parcours professionnel, comment lui a réussi, puisque souvent c'est les gens qui ont du succès. Et là, par exemple, on recevra aujourd'hui Edith Préto. Yes, alors je suis super fier, je suis un peu impressionné en fait même, parce que moi je suis toujours très impressionné par les artistes en général, mais Edith Préto c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en tant que chanteur, en tant qu'artiste, et ça m'a beaucoup touché qu'il accepte de venir dans ma petite émission sur Twitch MVP, donc Edith Préto, pas pour parler de la mort, pour parler de son parcours en fait, parce que c'est quelqu'un qui justement lui a très tôt a senti qu'il avait cette fibre artistique pour la comédie, parce qu'à l'origine il voulait plutôt devenir comédien, je crois, je lui poserai la question, et pour le chant, et qui a écouté cette petite musique intérieure, son mauvais jeu de mots, qui, et sa famille aussi, puisque je crois que ses parents, du coup, lui l'ont laissé prendre des cours de théâtre, de comédie, de musique, de chant, peut-être, je lui poserai la question, comment il a été accompagné par sa famille ou pas d'ailleurs, et pour essayer de comprendre un petit peu comment à un moment, certains voilà, écoutent cette musique intérieure qui leur dit, bah voilà, tonton. Ta vie à toi, elle est dans cet univers-là. Voilà, en l'occurrence, l'univers artistique. Donc, Edith Préto dans MVP. Ensuite, à 17h, donc sur la chaîne Twitch de Michou, puisque ça y est, ça a été annoncé, pour deux rendez-vous. Genre, en gros, de 17h à 23h, je suis chez Michou. Donc, et puis, de 20h à 20h30, je fais même une petite pause pour intervenir sur la chaîne Twitch du salon du jeu vidéo de la Flèche dans la Sarthe. Parce que j'adore aller rencontrer des passionnés de jeux vidéo. Et donc, j'ai accepté de passer une tête au salon de jeux vidéo de la Flèche dans la Sarthe dans quelques semaines. Et ils font un petit live ce soir pour qu'on en parle. Voilà. Donc, littéralement, ça fait 4 streams aujourd'hui. Merci Egon pour le soutien, pour le Prime. Merci Antoine Twitch pour le 22e mois. Il y a beaucoup quand même. Hein. Merci Dambrook à l'instant. Merci Cacahuète Frigide. Eh oui, la magie des pseudos sur Twitch. Cacahuète Frigide. Mais pourquoi pas? Mais ouais. Mais oui, mais t'as raison de... Oui, tu as raison. Merci pour le 7e mois. Merci Anonyme 31 pour le 32e mois d'abonnement. Merci Wasp. Merci Wasp. Et donc, j'ai raté ta réponse, Wasp, sur la thématique de cette tribune dans le monde dont tu parlais. Peut-être que les mots d'eau vont me l'indiquer. Merci Gros Loulou. Merci Legen. Merci Nelik. Merci Lily Plu. Mais pardon, c'est quoi cette pluie de sub? Lily Plu, 3 ans à te suivre, même si actuellement je peux moins te suivre car en conversion. Mais je te soutiens avec plaisir, merci pour tout le contenu que tu proposes, merci Lily Plu. Le prince du vignoble, bah, mais c'est quoi, pardon, j'avais pas vu tous ces subs. Merci Ambrosix à l'instant. Bon, ça va vous? Ouais, désolé. Alors le Poum qui dit, ah enfin une matinale, ça m'a manqué ces derniers jours, je m'excuse en fait. Netherback, merci pour le 8e mois, je m'excuse. À la base, la revue de presse, la matinée Étienne, c'est ce que je proposais sur Twitch et j'ai été emporté par... Par cet univers fascinant qui est l'univers du jeu vidéo. D'ailleurs, on a des articles sur la PJW et sur un jeu vidéo aujourd'hui dans la presse. Et emporté par cette curiosité pour cet univers, et c'est vrai que je stream aujourd'hui beaucoup de... par Valo notamment, de jeux vidéo, ou parce que je joue, parce que je découvre. Voilà. Et la revue de presse, on a fait un peu les frais, et je stream moins de revues de presse. Voilà. Et ça, je m'en veux un peu. Et donc, d'une manière ou d'une autre, je vais trouver une solution pour refaire plus de revues de presse. Parce que là, j'avoue que ça me manque. Et puis, je pense que ça manque un petit peu à la chaîne, quoi. Voilà. Donc ça, je vais essayer de trouver une solution qui est compliquée par rapport à l'emploi du temps. Mais je pense qu'il faut que j'accepte moins de choses le matin. Merci, Defecator. Voilà. Je pense qu'il faut que j'accepte moins de choses le matin. Moins de tournage, moins de collaboration, et il faut aussi que je me couche moins tard. Que le problème du jeu vidéo et le problème de Valo, par exemple, eh ben c'est que souvent, ça stream tard. Ça stream jusqu'à minuit, à 1h, à 2h du matin. Et donc, l'idée de mettre le réveil derrière à 5h du matin, en gros, pour lire les journaux, quand tu t'es couché à minuit, 1h ou 2, 4h parfois, eh ben c'est compliqué. Et donc, c'est la revue de presse, elle a pris un coup dans l'aile, pas seulement parce que je fais beaucoup de choses le matin maintenant. Lundi, j'étais en tournage en Rhône-Alpes, par exemple. Voilà. Quand il y a des grosses émissions comme je sais pas, Time Out, par exemple, il y a de la prépa à faire. Donc, parce que mes journées sont plus pleines qu'avant, mais aussi parce que mes soirées sont... je me couche plus tard, quoi. Voilà. Donc, mais ça ne me va pas. ça ne me va pas. Merci Netherback pour le soutien. Ça ne me va pas. Il faut que je trouve une solution pour que vous proposiez plus de revue de presse. Voilà. Ouais, Michou. Michou, c'est même plus que ce soir. C'est 17h-20h, je suis chez Michou. Voilà. C'est pas bon pour la santé de se coucher à 16h, Galax. Je pense que c'était moins bon pour la santé de me lever à 2h du matin, comme je l'ai fait pendant quasiment 10 ans. Je pense qu'il est moins bon pour la santé de se lever à 2h que de se coucher à 2h. Pour avoir essayé les deux, là, du coup, je dors un peu plus qu'avant. Je dors facilement 4-5 heures. Alors qu'avant, on était plus proche des 3 heures. Pourquoi je me levais à 2 heures? Parce que j'ai présenté des matinales en télé et en radio aussi pendant très longtemps. Voilà. Donc, en vrai, je pense que ma nouvelle vie me fait moins mal à la santé que ma vie d'avant, quoi. Après, il y a l'âge. Merci beaucoup, Cyprien. Je t'emmerde aussi, en fait, Cyprien. Voilà. Je te prends quand tu veux, sur n'importe quoi, sur du sport, sur du jeu vidéo. Je te lave. Malgré mon âge avancé, quoi. Voilà. Merci Roctaï pour le 4e mois. Merci Konpachi pour le 2e mois d'abonnement. Ah, Grougroum, il est choqué par le je t'emmerde en fait. Non, non, mais c'est Twitch, on est très libéré au niveau de la parole. Voilà. Les cheveux blancs aussi, ça aide pas? Putain, mais. Il y en a qui vont prendre cher. Hein. Bon, assez parlé de moi. Comment ça va vous? Salut Zenlet. C'est plus banni les gros mots, ça n'a jamais été sur Twitch. C'est la connerie qui est bannie sur Twitch. C'est la bêtise. Comment ça va, vous? Au moins, il a des cheveux. Merci, Toles. Comment ça va, Alexandra? Pas dormi, mais heureux. Qu'est-ce qui s'est passé, Sensei Kid? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Je suis en vacances, ça peut... Ah, Galax, c'est cool, ça. Victime d'insomnie, je dors environ 4 heures depuis 4 ans. Aïe, c'est pas bon, ça. Il plaisante sur le « je t'emmerde », c'est la réponse usuelle aux blagues sur l'âge et les cheveux. Non, non, pas du tout, c'est pas une plaisanterie. Non, non, pas du tout. Malade perso, on t'envoie de la force, Yanis. Est-ce que certains candidats de questions pour un champion savent que je suis sur Twitch? Question de Senshi. Dans tous les candidats de questions pour un champion savent que je suis sur Twitch. Sans exception. Les candidats de questions pour un champion ne sont pas des personnes âgées qui ne savent pas ce qui se passe dans notre société. Hein. Ce sont des gens qui sont très curieux de tout en général. Tu ne viens pas jouer à questions pour un champion sans une immense curiosité intellectuelle, sans une immense curiosité pour la culture, et notamment la culture moderne, et tout ce qui se fait dans les espaces numériques. Donc non, c'est pas si certain, c'est tous le savent en fait. Et beaucoup sont des viewers. Il y a beaucoup de team malades, hein. Ça va la Milou? Bonjour l'éclair blanc de quoi de Konoha. Merci Jérôme. Recherche d'emploi, force à toi Pearly. Te teindre les cheveux te rendrait plus jeune. Mais je suis jeune en fait, je n'ai pas à me rendre plus jeune. Je suis jeune en fait. Valorant passion ou addiction? Les deux mon général Jacobs. On cumule formation plus travail plus sport, on s'accroche. Hein. Alors, est-ce que moi, je pense que Kazé Ramat mérite de la force parce que les gens qui cumulent travail plus formation plus trouver le temps pour faire du sport, Kazé Ramat, force à toi, bravo. Il y a du déménagement. Oh, qu'est-ce qui se passe, Sensei Kid? Déménagement, sous-loc qui va pas très bien. Aïe, ouille. Ouh, ok, ça je connais Sensei Kid, je vois très bien. J'ai beaucoup colloqué à une époque. Ok, force. Ouais. Mélozax nous écoute depuis le travail. J'aime beaucoup le décor, tu l'as changé quand? Je ne l'ai pas changé. C'est le décor du mercredi, deux fois par mois, quand je fais MVP, mon émission qui arrive à 12h là. En fait, je ne suis pas chez moi, je suis dans des locaux où on me prête du coup un petit studio pour la revue de presse. Si vous tapez point d'exclamation studio, je crois que vous avez l'info. Je suis infirmière à domicile, je te vois presque tous les soirs chez mes patients. Je confirme que les candidats de questions pour un champion ne sont pas des retraités. Merci Moki Choups. En fait, la moyenne d'âge des candidats de questions pour un champion, elle est très basse. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent jouer. Enfin, elle ne cesse de diminuer, en fait. Voilà. Mais il faut regarder l'émission. Excellente émission, d'ailleurs. Ouais, 17h-20h même, Thibaut, chez Michou. Du coup, la plante ne pousse pas beaucoup puisque c'est un fond vert, donc forcément, elle pousse pas des masses. Ouais. Merci Camille, tu régales. Merci beaucoup pour les 5 abonnements offerts à la commu. Merci Lagui05 pour le 2e mois. Merci Kratos pour le 4e mois. Merci Ezekielos pour le 20e mois. Merci Klamakin in back, je ne t'avais pas vu. De retour, merci pour le 28e mois. Merci encore Octali, Kompachi et Netherback. Bien sûr que c'est un front vert, regardez. Mais il est très beau, hein. Vous avez vu ? Ouais. Ça vous a plu la PGW hier ? Ça vous a plu la PGW hier ? C'était bien en vrai, hein. Cette petite balade entre les trois halls de la Paris Games Week, là. C'était vraiment sympa. On l'avait bien préparé, hein. Vous avez, il y avait beaucoup d'interviews, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de stands, beaucoup de jeux. C'était vraiment un super moment. Moi, j'ai beaucoup aimé. Là, ils sont là, on t'envoie de la force. Le petit virus, là. C'était cool de découvrir les lieux sans toute la foule. Putain, c'est vrai qu'il y avait... Mais pourtant, il y avait du monde. Hein. C'était l'avant-première. À mon avis, il y a... Ouais, on a eu un petit problème d'éclairage, Kencho. Bien vu, effectivement. Ce matin, je me suis rendu compte de ça. Mais c'est pas mon studio, donc c'est pas mes petits réglages. Mais c'est déjà pas mal. C'est quand du Valorant ? Oh là là, pas avant longtemps ! Il y a un nouvel acte qui arrive, d'ailleurs, là. Pas avant longtemps, mon ami, puisque... donc là, aujourd'hui, on fait feu de tout bois avec littéralement 4 streams aujourd'hui sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Et après, c'est fini. Jeudi, je stream pas. Salut, sans t'aimer pas les pieds. Jeudi, je stream pas. Vendredi, je ne stream pas. Samedi, je ne stream pas. Dimanche, je ne stream pas. 4 jours sans stream, ça ne m'est pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé en 4 ans, peut-être, je ne sais pas. Voilà, j'ai beaucoup streamé depuis la rentrée, c'est une rentrée un peu sur les chapeaux de roue. Et donc, je prends 4 jours pour moi et ma famille, donc je ne stream pas pendant 4 jours. Tu vas craquer, je ne vais pas pouvoir craquer, Cyril, puisque je pars loin sans setup. Voilà, j'aurai pas de PC, j'aurai pas de table de mixage, j'aurai pas de lumière, j'aurai pas de caméra, j'aurai pas de jeu, j'aurai rien du tout. Je ne vais rien pouvoir faire autrement que 4 jours sans stream. Voilà. Et lundi, je réattaque Question pour un champion. Donc le prochain stream, c'est lundi soir.
Ouais.
À moins qu'on soit complètement dingue et que à la revue de presse de ce matin. Au MVP de 12h, au long stream chez Michou et au stream 20h-20h30 tout à l'heure sur la chaîne Twitch du salon du jeu vidéo de La Flèche, 4 streams, que ce soir en rentrant vers minuit, je pense, à la maison, je décide de lancer un stream de Valorant jusqu'à mon taxi du lendemain matin 5h qui m'emmène vers ma famille. Un 5e stream. Imagine, je passe à la maison, je fais ma valise. Ma petite valise, c'est très rapide, moi. Quand je pars en vacances, moi, c'est... La brosse à dents, il faut quoi ? Il faut quoi pour partir en vacances ? La brosse à dents, un nombre de caleçons correspondant au nombre de jours de vacances, donc là, 4. Idem pour les chaussettes, 4. 4 t-shirts. Un jean propre. Ça, c'est vite fait, hein. Et la trousse de toilette. Ça, c'est littéralement quand je pars en vacances. Toi. Le nombre de jours, nombre de t-shirts. Si tu pars longtemps, tu as une machine à laver, donc tu prends moitié moins de t-shirts que de jours. Il y a des règles comme ça. À partir d'une grosse semaine, tu peux diviser. Caleçon, chaussettes, pareil. Voilà. Donc, je rentre à la maison soir après chez Michou. Ok. Je fais ma petite valise. Et là, je vois dans quel état je suis. Si je suis au bout de ma vie et que je sens que je vais lancer Valo et que je vais être nul encore... Parce que je suis crevé, bon, je vais me dire, bon, écoute, Samuel, sois raisonnable. C'est pas la peine d'aller lancer, tu vas encore te faire déchirer. Et tu vas dérank, et ça va te faire tilter, tu vas crier, tu vas insulter les gens, les mates, les adversaires et le chat. Mais si je sens que je sais pas, que j'ai un petit peu la pêche et tout, qu'est-ce qu'on fait ? Un café, un Red Bull, on va au studio, et on stream Valo jusqu'au taxi, quoi. Jusqu'à 5h du matin, quoi. Voilà. Merci Chemical What The Fuck. Merci Kish Lorraine. Merci à tous les deux. Voilà, c'est la fin de la saison Valo, tu peux éviter le stream Valo. Vous pensez que c'est une mauvaise idée de streamer juste avant le nouvel acte ? C'est qu'on a l'idée de l'horaire précis du nouvel acte, c'est aujourd'hui, c'est demain, et après on enchaîne, on va voir les articles. Il faut prendre quoi pour ne pas avoir besoin de dormir comme ça ? Il faut faire que des trucs qui t'amusent, Manu. En fait, quand tu as la chance, comme moi, de faire que des choses que tu aimes, et j'ai cette chance depuis très longtemps, que de... Après, c'est très égoïste. Hein. Je m'offre le luxe depuis longtemps de ne faire que des choses que j'aime. Quand vous me voyez faire un truc, c'est parce que j'aime ça. Voilà, ça fait très longtemps que je ne me force pas. Alors, ça ne se fait pas comme ça. Bref, c'est des parcours de vie, mais je m'amuse énormément. Et en fait, ça remplace tous les cafés du monde, quoi. C'est demain à 3 h? Donc c'est la nuit prochaine, Nougat, c'est ça? Ou c'est demain après-midi? C'est demain à 3 h du mat? Est-ce que ta chérie va supporter de pas te voir la nuit? Bah du coup, elle voit pas, du coup, Gélix, quand je suis pas la nuit, parce qu'elle dort. Elle dort. C'est l'avantage de travailler ou de streamer la nuit. C'est qu'en fait, personne ne s'en rend compte. Et mon épouse, ça ne s'en rend pas compte. Oui, je suis sur le live de Michou ce soir. Ouais, tout à fait. Demain, 3 h du matin? D'accord, ok. Bah, on peut s'amuser à essayer de déranger juste avant le nouvel acte. Hein. Top. On va voir. Ça va dépendre. Parce qu'en vrai, peut-être que je serai un peu fatigué ce soir. En tout cas, merci. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci Aurélien Nanglas à l'instant pour le soutien. Merci encore, Keroxys. Allez, on a 1 h15. Pour Speed René, la revue de presse. Merci beaucoup, Shay, pour le Prime à l'instant. Zelda, pourquoi pas? Propre là-dessus. Ouais. Ma collègue m'a dérangé, j'ai raté les 3 dernières minutes. Kaziramat. Bah oui, mais dis-lui à ta collègue, là. Pas sérieux, ça. Je vous fais un petit sommaire, je vous donne l'essentiel de l'actualité d'aujourd'hui. Alors, en vrai, il y a des trucs vraiment intéressants. Et après, je vous lis ça en prenant un petit peu plus le temps. Mais en quelques minutes pour ceux qui ne restent pas tout le stream. Alors, d'abord, grâce au Monde, au journal Le Monde, eh bien, on a un dossier assez intéressant sur là où on en est de la campagne électorale pour la présidentielle aux États-Unis, puisque bah, Le Monde nous le rappelle ce matin, c'est dans 2 semaines. Je spoil un petit peu, c'est hyper serré. Il y a de grosses interrogations. Aujourd'hui, c'est une campagne tendue et indécise, dit Le Monde. Voilà, et Le Monde se penche un petit peu sur la campagne des deux candidats. Alors après, c'est ce que disent les sondages. Les sondages, il faut toujours les prendre avec précaution, bien sûr. Merci Synaptique pour le Prime. Mais les enquêtes d'opinion disent que les deux candidats sont dans un mouchoir de poche à 15 jours seulement de l'élection. Est-ce que Kamala Harris va devenir la première femme présidente des États-Unis? Ou est-ce que Musk va être à nouveau élu, voilà, après son mandat de la dernière fois là? Eh bien, pour l'instant, c'est très indécis, nous dit Le Monde. Avec un petit coup de projecteur sur le rôle de Musk, Elon Musk, le milliardaire, dans cette. J'ai dit Musk, lapsus révélateur, puisque justement, c'est ce que je m'apprêtais à vous dire. Musk est très présent aux côtés de Trump dans cette campagne, avec son argent, avec son réseau social. Et Le Monde est un peu inquiet de ça, en disant que ben, un soutien d'un milliardaire à un candidat à la présidentielle, c'est pas nouveau, mais à la manière de Musk et avec le rôle que Twitter joue là-dedans, ça pose beaucoup de questions. Donc ce lapsus Trump-Musk, il est, je l'assume totalement parce qu'en fait, Trump à Musk, si, les deux, les deux, les deux. Ah oh, bah ben, si, c'est la même chose, les gars. Ah oh, bah ben, ils sont cul et chemise, là. Hein. Ils sont cul et chemise. Donc pour le coup, d'ailleurs, bon, c'est vrai que Musk il peut pas se présenter, je crois, parce qu'il faut être né aux États-Unis, je crois. Il a été sud-africain avant. En train de me demander si Musk pourrait avoir des ambitions présidentielles un jour. Bon, voilà. Donc on se penchera là-dessus. En tout cas, ça inquiète un petit peu Le Monde. Qui est le cul, qui est la chemise, ça je ne sais pas. Ça. Pas si différent de la France finalement. J'ai en gris. Ah, j'ai pas la ref là. En France. On a un ancien président en France qui aurait été un milliardaire, qui aurait fait de la télé-réalité, qui a les cheveux peroxydés, qui a laissé ses militants marcher sur le Capitole et qui a jamais voulu reconnaître sa défaite à la présidentielle et qui s'est accoquiné un autre milliardaire qui contrôlerait un réseau social? En France? C'est pas bien la ref là. Ok, bon, peut-être. J'ai dû manquer les épisodes d'un truc. Ok, d'accord. On revient en France justement avec ce qui se passe à l'Assemblée et le RN et la gauche en plein bras de fer sur les retraites. Qu'est-ce qui se passe? Bah, globalement, le RN, donc l'extrême droite et la gauche sont d'accord sur le fait qu'il faut annuler la réforme des retraites qui a été voulue par le président Macron. Voilà, sauf que bah, c'est à peu près tout. Pour le reste, ils ne sont pas trop d'accord en général sur ce qu'il faut faire en France. Je parle de la gauche et de l'extrême droite. Le problème, c'est que le RN vient de faire une proposition de loi pour annuler la réforme des retraites. Et la gauche est d'accord pour annuler la réforme des retraites. Mais est-ce que la gauche veut voter avec l'extrême droite pour annuler la réforme des retraites? Ça, c'est une autre question. Voilà, donc il y a un papier là-dessus, c'est assez intéressant. Je vais vite parce que c'est le sommaire. Puisqu'on parle de l'extrême droite, parlons d'immigration, puisque c'était la une de Libération ce matin, Libé qui constate que à rebours de certains pays, l'Italie, par exemple, la France, avec un gouvernement qui entend serrer la vis sur la question de l'immigration, avec le ministre de l'Intérieur, c'est Bruno Retailleau, c'est ça? Eh bien, il y a un pays qui plutôt a envie d'ouvrir les vannes à l'immigration, notamment pour des raisons économiques, c'est l'Espagne. C'est la une de Libé ce matin. Meloni, donc c'est en Italie, veut expulser les migrants. Sanchez régularise. Voilà. Et si l'Espagne avait raison, à rebours de nombre de pays européens, notamment de l'Italie de Giorgia Meloni, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez souhaite faciliter l'intégration par le travail et les études des étrangers qui résident sur son territoire, ouverture liée à des besoins économiques. Donc on se penchera là-dessus. Je vais vite, c'est le sommaire. Alors ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, ça fait longtemps que je m'interroge sur, pardon, hein, mais sur ces influenceurs qui mettent en avant leurs enfants sur les réseaux sociaux pour créer du contenu, pour monétiser, quoi. Et on utilise l'image de l'enfant et sa bonne bouille et tout ça, et ça fait des sous. Alors au mieux pour l'enfant plus tard, au pire pour les parents, quoi, avec des enfants à qui on ne demande pas tellement leur avis. Voilà. Et donc La Croix fait un point là-dessus, puisqu'il y a une loi qui a été votée il y a 4 ans pour encadrer justement l'activité des influenceurs qui utilisent l'image de leurs enfants. Voilà. La Croix fait un point 4 ans après la loi pour voir ce qui a changé. Et effectivement, les choses ont un peu changé et plutôt en bien. Voilà. Donc tout n'est pas parfait, mais parfois il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité. On se penchera là-dessus avec La Croix. À propos de réseaux sociaux toujours, un petit papier rigolo dans Libération sur ces réseaux sociaux qui surfent sur la loose. Vous savez, ces comptes Insta ou Twitter ou autres qui rapportent des anecdotes type VDM, hein, vie de merde, voilà. Ou ex-relou. Alors moi, je connaissais pas ça. Il paraît qu'il y a un site qui s'appelle... Alors, il parle pas de la FFL. C'est vrai que la FFL, moi, ça m'aurait fait plaisir, mais Maker, t'as raison. Il n'y a pas la FFL, mais il y a ex-relou. Je sais pas si vous connaissez ce site. C'est que des anecdotes sur les ex-relous, comment ils sont relous. Voilà. Beaucoup d'hommes, un peu de femmes parfois. Je sais pas, il y a un exemple, par exemple, dans l'article d'une ex qu'on voyait des pigeons morts à son ex par courrier, dans des grosses enveloppes. Voilà. Et il y a Tej par texto aussi. Voilà, moi, j'ai découvert des sites que je ne connais pas. Et donc, Libération enquête un petit peu sur cette fascination qu'on a sur, finalement, les loses des autres. Exactement. Et puis on terminera par des trucs assez sympas en termes culturels. D'abord, tout le monde est d'accord ce matin, quand je dis tout le monde, c'est le Figaro ici, mais aussi le Parisien, Libération, pour dire qu'il y a un dessin animé, un film d'animation français qui s'appelle Angelo dans la forêt mystérieuse, et qui est un film français et qui est formidable. Ça sort aujourd'hui au cinéma. Voilà. Et vous avez plusieurs journaux ce matin qui disent que c'est vraiment formidable et qu'on peut être fier de ça. Avec une intrigue de conte de fées, ce film d'animation plonge dans le bain bouillonnant de la pop culture. On ira voir le trailer, la bande-annonce de ce film, parce que voilà, tout le monde, tous les journaux vous disent ce matin que c'est vraiment formidable. Ici, c'est le Figaro, par exemple, là, c'est le Parisien, mais Libération le dit aussi. Il y a Lucky 13 qui me dit dans le chat que il ou elle a vu ce film à Annecy, festival du film d'animation d'Annecy, et qu'il est incroyable, effectivement, à Annecy. Il paraît que ce film a vraiment marqué les esprits. Et puis on finira avec la Paris Games Week. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler. J'ai vu hier, je suis tombé sur un stream d'un vieux gars sympa qui a une bonne tête. Voilà. On ne comprenait pas toujours ce qu'il disait parce que avec l'âge, il articule pas très très bien, mais qui a fait un stream à la PGW entre 17h et 21h, qui était plutôt sympa. Ouais. Et donc là, il y a un papier dans le Figaro sur la Paris Games Week, sur tout ce qu'on peut y trouver et sur le contexte du jeu vidéo qui est un peu morose. Voilà, en termes de notamment de vente de jeux vidéo, on se penchera un petit peu sur les raisons de cette morosité. Et puis, en parlant de jeux vidéo, moi je suis content parce que du coup, ce jeu vidéo, je ne le connais pas, je n'ai pas encore joué. Mais hier à la PGW, justement, on m'a dit qu'il avait énormément de succès. C'est Warhammer Space Marine 2, hein, qui est aussi un jeu français. Voilà. Pull Up, c'est l'éditeur français qui est derrière ce jeu et c'est un énorme carton. Voilà. Et on en parlera avec vous tout à l'heure parce que je voudrais savoir si vous connaissez ce jeu, si vous y avez joué et si vous me le recommandez. Recommandez. Oui, la gendarmerie est présente à Paris Games Week. Ouais. D'ailleurs, j'ai croisé un très sympathique gendarme et je lui avais dit que je viendrais le voir, mais le programme était tellement chargé, j'ai pas eu le temps. Voilà. Voilà pour le petit sommaire et maintenant on va prendre le temps de lire tout ça. On a 1h15. Ça va, c'est un peu court. Ouais, je suis chez Michou ce soir. C'est mignon parce que tous les 10 messages, c'est quelqu'un qui vient me dire mais t'es chez Michou ce soir. Ouais, 17h, 23h même. Une journée Michou même, j'ai envie de dire. Voilà. Je suis content de cette invitation en vrai. Je pourrais être son grand-père en vrai. Mais oui, je suis chez Michou ce soir, c'est fou hein. Non, pas celui qui s'habille en bleu, l'autre. Il est mort, celui-là. Qu'est-ce que tu vas faire chez Mich-Mich? Je sais pas. Des trucs sympas. Il m'a dit, mais je sais plus. Des trucs super. Payer, c'est-à-dire payer. Il y a Season is not dead 4D qui dit payer. Payer, c'est-à-dire. Est-ce que je suis payé pour aller chez Michou? Non. Par contre, c'est un participe passé. C'est P-A-Y-E. Là, tu as écrit ER, c'est un infinitif. À moins que tu me demandes s'il faut payer pour aller chez Michou. Si moi, c'est moi qui paye. Je sais pas, c'est pas très clair. Alors, mets-toi d'accord sur le participe passé ou sur l'infinitif. Précise ta question. Et pour répondre à ta question, celle que tu poses ou que tu poses pas, je sais pas. Je suis pas payé et je paye pas Michou. Voilà. Tu veux mon IBAN? Tu veux quoi? Tu veux mon code de sécu? Mon numéro de sécurité sociale? Tu veux ma déclaration d'impôt? Tu veux un test ADN? Pour voir si je suis pas ton père ou un truc comme ça. N'hésite pas, chouchou. On est là pour rendre service. T'as un lien de parenté avec Michou? Oui, je suis son grand-père. D'autres questions? Hello. Salut. Ça va? Je suis le grand-père de Michou, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut commencer à lire les articles maintenant qu'on a passé les questions essentielles sur payer, P-A-Y-E-R? On peut? On y va? Allez, vamos. Papa, c'est quand tu rentres à la maison? Arrêtez, bordel. J'ai plein de papas dans le chat, c'est trop mignon. Allez, c'est parti. Oh! Il y a qui chez MVP aujourd'hui? Ça va être super, MVP, aujourd'hui. Ça va être top. Incroyable. Bon, je vous montre vite fait. Attendez. Attends, il faut que j'aille sur mon compte Twitter, sur mon iPad, parce que du coup, je suis pas connecté ici. Je suis pas chez moi. Ok. Alors, le MVP d'aujourd'hui. Attendez, je vous montre la petite. Où est-ce qu'elle est? J'ai fait un peu trop de choses ces derniers jours. Faut que je remonte à combien de jours en arrière pour trouver mon visuel d'MVP en vrai. Jude, il est où? Play time. Ah! Tadam! Les métiers de la mort. Voilà. Ça, c'est le programme d'MVP aujourd'hui. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ah, ça marche pas. Alors. Ah non, l'iPad plutôt. Les métiers de la mort. Voilà. Bah oui, c'est la Toussaint bientôt. Donc, les métiers en relation avec la mort, infirmiers, médecins, gardiens de cimetière. Salarié de pompe funèbre, thanatopracteur, non pas tueur à gage, on n'en a pas trouvé, enfin qui voulait témoigner, mais aussi médecin légiste, on a une jeune médecin légiste qui va venir avec nous. Voilà, donc voilà. Donc dans la joie, dans la bonne humeur. Et donc on reçoit Julien Méniel, qui est un ancien infirmier, hein, qui est un créateur de contenu maintenant, qui va nous parler du rapport des soignants avec la mort. Voilà, Julien Méniel. Ludovic B, c'est notre spécialiste des métiers, il viendra parler du métier de notaire, voilà. Voilà, exactement, c'est le frère d'Adrien, Julien, voilà. Sabrina, qui est croque-mort, voilà, je me demanderai si le mot lui va, conseillère, comme on dit, funéraire, voilà, mais qui est aussi très présente sur les réseaux sociaux, parce qu'elle parle de son métier sur les réseaux sociaux, voilà. Et Eddie de Préto, rien à voir avec la thématique... le chanteur, hein, on a à chaque MVP un grand invité, un grand témoin qui vient parler de son parcours Exactement, Cravagnius, je crois qu'il est fan de métal, Julien. De son parcours, voilà, pro, voilà. Comment il a trouvé sa voix? C'est quelqu'un, c'est un artiste que j'aime énormément et il nous fait l'amitié. Et je suis très heureux de le recevoir à 12h. C'est pas mal comme petite line-up, je pense. Donc ça, c'est pour le MVP à 12h. Les amis, c'est parti pour la revue de presse. C'est marrant, je vois quelqu'un dans le chat qui était à l'école avec Edith Préto. C'est fou. On va aux États-Unis pour commencer. Regardez, avec cette campagne pour la présidentielle des États-Unis, l'élection est dans 15 jours. Campagne tendue et indécise, nous dit Le Monde dans sa dernière édition, à 2 semaines de la présidentielle, donc le mardi 5 novembre, Kamala Harris et Donald Trump sont engagés dans une lutte à l'issue très incertaine, c'est très serré pour l'instant. Les deux candidats. Excusez-moi, je réponds à Joe. Ah bah, il est gentil, Joe. Top, merci pour le casque. Parce qu'en fait, Joe m'accompagne chez Michou tout à l'heure. Je prends un boîtier orange. Attends, j'ai plein de questions de Joe, désolé. Ouais, je vais chez Michou tout à l'heure. h 30. 18h, je rendez-vous à 17h30 avec Michou. 15h, c'est un peu tôt. Voilà. Voilà. Joe est adorable, il m'accompagne. Ça lui faisait plaisir de m'accompagner là-bas. C'est un peu tôt pour moi. Voilà. Hein. L'avantage de Twitch, c'est que tu peux faire tes petites histoires en même temps. Voilà. Super. C'est qui Michou? Bah, le youtubeur Michou. La campagne aux États-Unis, donc c'est très serré, vous le voyez. Voilà, c'est ce que disent en tout cas les instituts de sondage. Après, ils peuvent se tromper, hein, bien sûr. Et ne pas mesurer ce qui se passe réellement. Mais ça, on le saura au moment de l'élection. Peut-être que Trump va gagner largement. Peut-être que Kamala Harris va gagner largement. Et ça, on ne le sait pas. Le Monde le dit d'ailleurs. Hein. Voilà, parfois, les sondeurs voient juste et parfois, ils n'arrivent pas à anticiper un phénomène, une réalité politique. Le fossé s'est creusé entre le vote des hommes et celui des femmes, voilà, notamment chez les jeunes hommes et les jeunes femmes. Bon, les jeunes femmes votent majoritairement pour Kamala Harris, les jeunes hommes majoritairement pour Donald Trump. La démocrate fait campagne sur les droits reproductifs quand le républicain, donc Trump, mobilise sa base masculiniste, écrit Le Monde. L'élection mettra à l'épreuve la solidité de l'état de droit alors que Trump durcit sa rhétorique contre les ennemis de l'intérieur. Alors, un des éclairages du Monde, outre le fait que le scrutin est a priori très serré, c'est que Donald Trump, lui, clairement, semble vouloir conquérir des électorats masculins. Le candidat républicain multiplie les clins d'œil machistes pour inciter les hommes qui se désintéressent de la politique à voter pour lui. Pendant sa longue carrière de vedette de catch, Hulk Hogan. En effet, sa marque de fabrique avant chaque combat, il déchirait son t-shirt sans manches. Et ben, manifestement, il l'a refait récemment lors d'un meeting pour Trump, puisque j'apprends que Hulk Hogan, le célèbre catcheur, en fait, il est pro-Trump. Voilà. Hulk Hogan est figure très populaire dans l'univers MAGA, Make America Great Again, slogan de Trump. Voilà. Cet univers pétri de bro-culture, écrit Le Monde, brother-culture. Cette connivence masculine faite de références populaires que ne cesse de pourvoir Donald Trump. Cette bro culture, je ne connaissais pas, voilà, brother culture, qui murmure, estime Le Monde une forme de nostalgie, celle d'une domination au détriment de l'autre sexe, donc du domination du sexe masculin sur le sexe féminin, mais qui se nourrit aujourd'hui des technologies modernes comme l'IA par exemple, mises au service du sarcasme et de la méchanceté, des petits clips un peu bizarres sur Internet. Dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, un phénomène s'impose nettement, le fossé entre le vote des hommes et celui des femmes, constate Le Monde. Il est d'autant plus grand quand on s'intéresse aux électeurs les plus jeunes. L'écart entre les jeunes hommes et les jeunes femmes est incroyable, souligne une rédactrice en chef d'un site d'information conservateur. Chaque sondage, chaque étude quali qu'elle fait avec des électeurs montre que Trump fait très bon score chez les jeunes hommes aux États-Unis. Et Kamala Harris, c'est l'inverse chez les jeunes femmes. Kamala Harris qui, elle, axe sa campagne notamment sur les droits reproductifs. Voilà. Je vais vous parler d'un meeting qui a eu lieu en Pennsylvanie le 19 octobre, mais je vous lis d'abord. C'est Le Monde, c'est la dernière édition du Monde. Ouais, c'est la une du Monde même. Ouais. C'est intéressant, il y a Jean Maco qui estime que c'est juste une stratégie, comme il y a une femme en face, il doit appuyer sur la base masculine. Ouais, c'est peut-être un truc de stratégie électorale. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que l'électorat afro-américain est également divisé. C'est très juste Quentin, Le Monde en parle d'ailleurs. C'est quoi les droits reproductifs? Moi aussi, Spectre, j'ai été surpris par cette expression dans Le Monde. Je suppose qu'il s'agit notamment de la question du droit à l'avortement. Je pense, hein, mais je ne connaissais pas l'expression. Ah, c'est ça, hein, bah c'est ce que confirme Azan01 dans le chat. Voilà. Retour du patriarcat avec Trump, Chevalier 2000. Alors, sans être un spécialiste de ces questions, je ne crois pas qu'effectivement Trump soit un grand militant des droits des femmes. Son comportement global vis-à-vis des femmes. Rappelons qu'il a eu affaire à la justice à ce sujet. Je ne crois pas que ça en fait un champion de l'étendard des droits des femmes, effectivement. Et rappelons que c'est sous son mandat qu'il a nommé plusieurs juges ultra-conservateurs à la Cour suprême, ces juges qui ont remis en question le droit à l'avortement aux États-Unis. Enfin, voilà, ça c'est juste factuel, quoi. Je vous parlais d'un meeting qui a eu lieu en Pennsylvanie il y a quelques jours, où on a entendu Elon Musk qui a rendu un. Non, c'est l'inverse, c'est Trump qui a rendu un long hommage à Elon Musk, voilà, son compagnon de route, le milliardaire qu'il soutient avec ses sous, mais aussi avec son réseau social Twitter, et ça on en parlera tout à l'heure. Un meeting aussi où le journaliste du Monde, l'envoyé spécial du Monde sur place, a rencontré plusieurs militants comme Austin White. 23 ans, White c'est son nom de famille, et qui dit pourquoi il soutient Trump. Alors c'est un jeune diplômé en architecture, il vit encore avec ses parents. Selon lui, Trump est la meilleure option pour les siens face à un système corrompu, dit-il. Seul le milliardaire pourrait régler la question migratoire et protéger l'intégrité des élections qui seraient supposément menacées depuis la présidentielle de 2020. L'assaut du... Alors, le Monde a posé la question à ce militant sur l'assaut du... contre le Capitole du 6 janvier 2021 qui avait été mené par les militants pro-Trump. Et alors lui, il répond, dans les vidéos que j'ai vues, les gens qui sont entrés dans le bâtiment voulaient surtout visiter l'endroit. C'était une petite visite touristique. Il n'y avait pas de mauvaises intentions. Par contre, il y avait des gens du FBI qui étaient infiltrés dans la foule. Et le Monde explique que c'est une des thèses conspirationnistes les plus répandues dans le monde trumpiste, hein, en fait, que c'était en fait, ce sont des agents du FBI, en fait, hein, qui étaient infiltrés dans la foule et qui ont donné ce caractère un peu agressif à cet événement. Le Monde qui rappelle que près de 1300 personnes ont été arrêtées pour la participation à l'assaut. Alors ce jeune homme, là, ce pro-Trump, Austin White, dit écoutez, regardez de nombreuses sources d'informations et de divertissement, chaîne traditionnelle, podcast, voilà... il évoque notamment l'ancien présentateur de Fox News Tucker Carlson. Alors, Le Monde rappelle que Tucker Carlson, c'est lui qui avait popularisé sur son antenne la théorie raciste du grand remplacement de la population américaine blanche par des migrants, un plan prétendument caché des démocrates. Dans un documentaire, Carlson s'était aussi plaint de l'effondrement total des niveaux de testostérone chez les hommes américains. Du coup, Le Monde a interrogé ce pro-Trump sur son président idéal, et il dit, deux points, ouvrez les guillemets, je pense qu'il devrait avoir un passé militaire, s'être sali les mains avant de prendre des décisions graves, ça permettrait de faire une bonne présélection. Et ce militant, enfin cet électeur dit, si Kamala par exemple était un vétéran, j'aurais plus de respect pour elle. Voilà. Alors le Monde fait remarquer à ce jeune homme que Trump n'a pas fait son service militaire. Voilà. Il a échappé au service militaire. Voilà. Et le jeune homme dit si, il a servi. Et le Monde lui dit non, en fait, pas du tout. Et il dit et donc le jeune militant répond bon, de toute façon, je pensais pas à lui. Voilà. Je ne commenterai pas cet échange qui me régale. 15 jours du vote, donc face à face, toujours tendu, toujours incertain, constate Le Monde. Je vous lis rapidement cet article qui dit que voilà, c'est très serré. Engagé dans une empoignade incertaine, tendue, souvent confuse, Kamala Harris et Donald Trump multiplient les déplacements, les prises de parole, les coups fuse. À 2 semaines de la présidentielle, qui mettra à l'épreuve l'état de droit américain, la solidité des procédures de vote, les candidats se focalisent sur un nombre réduit d'états pivots qu'ils labourent avec ardeur, parce que tout va se jouer dans certains états, avec le système des grands électeurs, qui est assez intéressant à étudier. Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Géorgie, c'est là que ça va se jouer. La course aux 270 électeurs. Voilà, et parfois, ça va se jouer même pas dans un état, mais dans un comté, voire dans une ville, voire dans un quartier. C'est extrêmement serré. Aucun des deux candidats ne s'impose nettement comme l'incarnation du changement, puisque tous deux ont à répondre du passé. Trump a déjà été président 4 ans. Kamala Harris doit répondre du bilan de Joe Biden en tant que vice-présidente. Kamala Harris mise sur l'effet repoussoir du Trumpisme sur un sujet notamment de mobilisation puissant qui est l'avortement. Trump insiste, lui, sur le coût de la vie, sur la question migratoire, les deux vulnérabilités de l'administration Biden en peignant à gros traits une Amérique en décomposition. Tout les sépare, écrit Le Monde, leur programme, leur personne, leur vision de l'Amérique, leur soutien, leurs moyens, leur stratégie. Kamala Harris jouit d'un avantage financier certain avec près d'1 milliard de dollars. Bon, je trouve les chiffres complètement fous. 920 millions d'euros récoltés en 3 mois. En septembre, son équipe, ses comités de soutien ont réuni 378 millions de dollars contre 160 millions de dollars seulement pour Trump. Voilà. Un avantage financier, donc, mais qui ne dit rien. Et qui ne garantit rien. Rappelons que Hillary Clinton avait échoué face à Trump alors qu'elle avait collecté plus d'argent. Quant à Trump, alors lui, il est un peu embêté parce que du coup, il a dû s'absenter de la campagne à plusieurs reprises pour aller lever des fonds, justement, en exprimant au passage sa frustration contre les puissants donateurs conservateurs qui ne sont pas assez enthousiastes, selon lui. Le plus riche, Elon Musk, est aussi le plus motivé, au point de devenir un participant actif de la campagne. Il a mis au service de Donald Trump son réseau social X, sans parler de sa contribution de 75 millions de dollars. Et Le Monde, justement, s'inquiète un petit peu de ces liens très forts entre Donald Trump et Elon Musk. Merci IBXNX pour le soutien. Merci Olay. Merci Patatomic. Merci encore Mathis. Oh, merci Synaptique. Merci Chavi. Je pense que j'ai pas remercié tout le monde. Le soutien problématique d'Elon Musk à Donald Trump, c'est l'édito du Monde que je vous lis. Merci Trisotos. Dans les relations incestueuses que la politique américaine entretient avec le monde des affaires, un cap est en train d'être franchi avec l'alliance entre Donald Trump et Elon Musk. Jusqu'à peu, l'homme le plus riche du monde était sceptique sur les capacités du candidat républicain à diriger le pays, mais en quelques mois, il est devenu l'un de ses plus fervents supporters pour la prochaine présidentielle. La nouveauté n'est pas que le patron de Tesla, de SpaceX et du réseau social X soit l'un des principaux bailleurs de fonds de Trump. Il est classique aux États-Unis que les milliardaires financent les candidats. Et de ce point de vue, Kamala Harris n'a rien à envier à son rival. Elon Musk n'est pas qu'un simple soutien financier. Voilà. C'est ça qui inquiète le monde. Il est désormais un rouage à part de la campagne de Trump, avec des méthodes qui posent question, une capacité d'influence sans pareil, le tout au service de théories complotistes. Les méthodes d'abord, par exemple, après s'être affilié début octobre avec Trump lors d'un meeting en Pennsylvanie, l'un des États susceptibles de faire basculer le vote, Elon Musk vient de lancer une loterie quotidienne dotée d'$1 million pour inciter les gens à s'inscrire sur la liste électorale. Un procédé litigieux sur le plan juridique qui pourrait s'apparenter à l'achat de voix. L'influence ensuite, même si la campagne de 2024 ne se joue qu'à la marge sur Twitter, sur X, le fait qu'Elon Musk instrumentalise le réseau social, son réseau social, qu'il a racheté en 2022, soulève clairement un problème d'équité. Sous prétexte de défendre la liberté d'expression, la plateforme diffuse mensonges et calomnies pour nuire aux démocrates tout en multipliant les prises de position explicites en faveur de Trump. Ainsi, au lendemain des ouragans Helene et Milton, Twitter a été utilisé pour déverser un torrent de désinformation sur la réponse de l'État fédéral apporté à la catastrophe naturelle. Peu à peu, le réseau social s'est transformé en un organe informel au service de Trump, de sa candidature. Le Monde qui écrit, il serait naïf de croire que c'est uniquement par conviction que l'homme le plus riche de la planète roule pour Trump. Son soutien est évidemment lié à ses intérêts, et ils sont nombreux. Les sociétés d'Elon Musk bénéficient de contrats fédéraux avec la NASA, le Pentagone, de subventions diverses, sans oublier le rôle de son réseau de satellites de télécommunications Starlink. Conclusion de l'édito, à un moment où des décisions cruciales concernant l'avenir de l'intelligence artificielle et la commercialisation de l'espace doivent être prises, Musk se met en situation de transformer son immense richesse en une source de pouvoir politique inédite sans avoir à rendre des comptes puisqu'il n'est pas élu. Le rôle qu'Elon Musk pourrait être amené à jouer n'est pas le moindre des risques posés par un second mandat de Donald Trump. Pourquoi Trump était dans un McDo il y a quelques jours, je ne sais pas du tout, Raph, faut lui demander. Bon, je crois que c'était un truc de communication, quoi. Qui avait l'air plutôt réussi, d'ailleurs. Musk s'achète un avenir radieux pour ses entreprises et lui estime complot triste. Ouais. Bon, en tout cas, si Trump gagne. Ouais. Parce qu'il avait la frite. Bonne réponse de Moulbit. Salut Sarah. Je sens qu'en 2008, on va voir Musk qui se présentera. Je ne suis pas sûr que Musk puisse présenter. Je crois que pour se présenter à la présidentielle américaine, il faut, je me demande s'il ne faut pas être né américain. Je crois qu'Arnold Schwarzenegger, de l'époque où il était gouverneur de Californie, on s'est justement dit que Schwarzy, Terminator, ne pouvait pas se présenter à la présidentielle puisqu'il était d'origine autrichienne. Voilà, il n'est pas né aux USA, voilà, c'est confirmé par le chat. Donc je pense que ce n'est pas possible pour Musk. Voilà. Information confirmée par le chat. Ah, il est né en Afrique du Sud, voilà. Grande Madame, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Grande Madame nous explique, et elle a raison, oui, elle a raison, qu'on lit bien sûr l'actualité américaine avec notre tropisme, nos regards européens, et en fait, sauf que les ressorts, les modes de réflexion, les valeurs dans ce pays ne sont pas tout à fait les mêmes que nous, et du coup, notre lecture de ce qui se passe là-bas, les évolutions sociales ou l'actualité politique, en fait, elle est faussée parce qu'en fait, on juge ça avec nos propres grilles de lecture et en fait, on est souvent un petit peu à côté de la plaque. Qui vois-tu gagner? J'en ai aucune idée. Si j'étais aux États-Unis, tu soutiendrais qui, Samuel? Melozac, si tu poses la question, c'est que tu ne viens pas souvent sur ce stream puisque même si j'essaie de pas trop mettre en avant mes opinions, je crois que mon choix est évident. Notamment pour le rapport des deux candidats à la question de la démocratie. Revenons en France un petit peu, mais quelque chose me dit que d'ici les deux prochaines semaines, on va reparler des États-Unis sur ce qui se passe actuellement à l'Assemblée autour de la réforme des retraites. Puisque vous avez à l'Assemblée plusieurs partis qui aimeraient revenir sur la réforme des retraites mise en place par le président Macron. Mais le problème, c'est que ces partis sont d'accord sur le fait de revenir sur cette réforme, mais c'est à peu près tout. Le RN et la gauche en plein bras de fer sur les retraites, que se passe-t-il? Le texte d'abrogation de la réforme adoptée en 2023, qui va être défendu par Marine Le Pen le 31 octobre, divise le nouveau Front populaire, faut-il ou non le voter? Je vous résume la question. Est-ce que la gauche doit voter une réforme qu'il souhaite, c'est-à-dire l'annulation de la réforme des retraites, avec l'extrême droite? C'est la question. Article de Julien Dufay. Un piège tendu à la gauche, voilà comment depuis plusieurs semaines on qualifie chez les députés du NFP la décision du RN d'inscrire le 31 octobre dans le cadre de sa journée d'initiative parlementaire, ce qu'on appelle la niche parlementaire, l'abrogation de la dernière réforme des retraites. Ce que souhaite la gauche. Voter oui avec le RN risque pour la première fois de donner le point à l'extrême droite. Ne pas voter, est-ce que ne pas voter ne provoquerait pas l'incompréhension de ses électeurs de gauche. À 10 jours de l'échéance, le dilemme et le débat restent vifs dans les rangs de la gauche. Le groupe PS, par exemple, a pris les devants dès le 24 septembre en annonçant qu'il ne voterait pas cette proposition de loi parce qu'elle est proposée par le RN et renvoie le sujet à la niche des Insoumis, elle qui sera un peu plus tard le 28 novembre, avec une proposition d'abrogation commune à la gauche et plus apte à prospérer au Sénat qui sera alors proposée. C'est la solution que propose le PS. On ne banalise pas le RN, donc on garde le cordon sanitaire, justifie le député socialiste Laurent Baumel. Si la gauche commence à voter un texte du RN, on met le doigt dans un engrenage et ça ne s'arrêtera plus. Mais, donc ça, chez les socialistes, c'est à peu près clair. En revanche, du côté de la France insoumise, on est un peu divisé là-dessus. Chez les communistes, on est divisé aussi là-dessus. et chez les écologistes également. Chez les Insoumis, le débat n'est pas encore tranché sur la position que le groupe adoptera le 31 octobre. Suspense. Chez les communistes, si on prend Fabien Roussel, le secrétaire national, ancien député, eh bien lui, par exemple, il dit qu'il faut voter avec le RN. Si j'étais encore député, je voterais le texte du RN, confie Fabien Roussel. Les Français veulent l'abrogation. Ils se foutent de savoir d'où ça vient. Allez parler de cordon sanitaire à ceux qui pensaient partir à la retraite en septembre et qui doivent faire un an de plus, dit-il. Chez les écologistes également, hein, c'est 50-50. Certains ne veulent pas donner une victoire à RN, mais moi, dit une députée écologiste, je ne vois pas comment je n'appuie pas sur le bouton, je ne saurais pas l'expliquer à mes électeurs. On est tous tiraillés sur nos principes. Voilà, la gauche qui s'interroge là-dessus. Bonjour, bonjour, Basic. Merci Arnaud pour le soutien. 37 mois d'abonnement. Merci Arnaud. Ben, framboise, la réforme des retraites du président Macron. La framboise qui demande de quelle réforme parle-t-on ? La réforme des retraites du président Macron, l'allongement de la durée de cotisation, tout ça, quoi. Enfin, la réforme qui a été mise en place, quoi. Et donc, une grosse partie de l'opposition veut son abrogation, quoi. Désolé, je caressais mon chat. Ah ben voilà, c'est pour ça. Quelle retraite ? Ah, ça, c'est une autre question, ça. Merci, Basic. Pourquoi le RN a fait sa proposition avant le NFP ? Très bonne question de Cookie. En fait, c'est très simple. C'est une histoire d'agenda parlementaire. C'est-à-dire qu'en fait, les groupes d'opposition à l'Assemblée ont ce qu'on appelle des niches parlementaires. C'est-à-dire qu'ils ont des dates dans le calendrier parlementaire où ils peuvent proposer des propositions de loi, projet de loi quand ça vient du gouvernement, proposition de loi quand ça vient des députés, pour essayer de faire voter une loi. Et chaque groupe a un calendrier et une niche parlementaire, une date où il peut proposer, je valide la blague, ouf ouf, de Clément Politeau, niche, ouf ouf, let's go. Voilà. Une proposition de loi pour tenter de la faire passer. Et c'est juste que la niche parlementaire du RN, elle est avant celle de la gauche. Voilà. Alors c'est plus compliqué que ça. Soit ils priorisent leur guéguerre avec le RN, soit ils respectent leurs engagements envers leurs électeurs. Oui et non, parce qu'en fait la gauche peut aussi, dans sa niche parlementaire, faire cette proposition d'abrogation de la réforme des retraites. Parce que le débat que je vois dans le chat qui est très intéressant, il y a certains qui disent attendez, quelqu'un a écrit tout à l'heure le RN propose A. Non, pardon. Je crois que tu l'avais écrit différemment, c'était assez clair d'ailleurs. La gauche veut A. A, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Le RN propose A, l'abrogation de la réforme des retraites. Le NFP ne veut pas voter A. Alors oui, présenté comme ça, c'est un peu choquant, mais la politique, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est aussi avec qui tu fais. Et à un moment que des élus de gauche lient leur voix à celle de l'extrême droite, sur un texte, ça n'est pas anecdotique. Voilà. Et après, l'extrême droite, le Rassemblement national, Marine Le Pen, va pouvoir prendre à partie les Français en disant, vous voyez, on a des bonnes idées, tellement bonnes que même la gauche vote avec nous. Ouais. Donc, il y a des arrière-pensées politiques derrière. Bon, c'est tout, le débat, il est aussi simple que ça. Ah, très bonne question de Cramule, mais comment on fait A ? Et comment on finance après ? Parce qu'évidemment, il va falloir rentrer un petit peu d'argent dans les caisses, alors ça, c'est autre chose. En France, on est plus fort pour créer des nouvelles dépenses que les nouvelles recettes, et d'où la situation budgétaire actuelle. Allez, on enchaîne avec Libération, puisqu'on parle du Rassemblement national, parlons d'immigration, l'enchaînement, il est assez easy. C'est la une de Libé ce matin. Et si, sur la question de l'immigration en Europe, C'est pas l'Espagne qui avait raison, contrairement à ce qui se passe actuellement en Italie ou encore en Allemagne ou encore en France avec le nouveau gouvernement. Meloni, donc c'est en Italie, veut expulser les migrants. Sanchez, l'Espagnol, lui, régularise. À rebours de nombreux pays européens, notamment de l'Italie, de Giorgia Meloni, le gouvernement espagnol socialiste de Pedro Sanchez souhaite faciliter l'intégration par le travail, les études des étrangers qui résident sur son territoire, une ouverture liée aussi à des besoins économique. Lisons l'édito d'Alexandra Schwarzbrod. Donc vous avez un très gros dossier dans Libération. Je ne vous lis pas tout ce dossier. Si ça vous intéresse, vous irez lire et acheter Libé, une presse de qualité si vous l'achetez pas. Elle va mourir à un moment. Par contre, l'édito d'Alexandra Schwarzbrod résume très très bien le débat. Je vous lis cet édito, je zoome un petit peu. Voilà. Pas trop parce que sinon vous ne voyez plus rien. Voilà. Let's go. Alexandra Schwarzbrod. Alors que le gouvernement français s'apprête à plancher sur une énième loi immigration, visant à resserrer un peu plus encore les conditions d'immigration dans l'Hexagone, à seule fin de satisfaire les électorats de droite et d'extrême droite, le Premier ministre espagnol montre, lui, qu'une autre politique est possible en matière d'accueil des étrangers. Il n'y a rien là d'angélique. Le socialiste Pedro Sanchez a simplement compris que si l'Espagne veut continuer sur sa lancée d'une croissance forte, plus 2,9%, c'est l'une des plus fortes de l'Union européenne, il n'a pas d'autre choix que de faciliter les démarches pour obtenir un permis de résidence et de travail et légaliser un demi-million de sans-papiers à la faveur d'une régularisation extraordinaire qui a été approuvée du bout des lèvres par la droite. C'est intéressant, la droite a dit OK. Le Parti populaire, seul Vox, parti d'extrême droite, a rejeté le texte. Autant de mesures qui devraient permettre, dans un pays menacé de vieillissement, de créer 1,5 million d'emplois supplémentaires d'ici à 2026. Alors qu'en France, par exemple, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour ne pas le nommer, est parti en croisade contre les immigrants. Bruno Retailleau, nommons-le, qui attend son heure depuis longtemps, s'est soudain retrouvé à la faveur de la dissolution et d'un gouvernement composé tel un jeu de bonneteau à la tête d'un ministère régalien. Il entend bien s'en servir comme tremplin. 504 sans papier, vous avez Chevalier qui est en PLS dans le chat. Bois un verre d'eau, ça va bien se passer. C'est en Espagne, t'es pas espagnol, tout va bien. C'est les gens qui se mettent en PLS assez facilement, hein. Quoi de mieux dans ces conditions que de surfer sur la peur de l'étranger répandue par une extrême droite qui représente un tiers de l'électorat en France? C'est ainsi qu'on a vu la semaine dernière à la frontière italienne, auprès de ministres d'un gouvernement Meloni, qui n'envisage rien de moins que transférer des immigrants dans des centres de rétention en Albanie. Mesure qui a été retoquée par la justice italienne d'ailleurs, car contraire à un récent arrêt de la Cour de justice de l'UE, preuve que le sujet de l'immigration mérite mieux que des effets de manche et que l'équipe de Barnier gagnera à écouter à l'image du gouvernement Sanchez, ses patrons de l'hôtellerie-restauration du BTP qui désespèrent de trouver de la main-d'œuvre. Alors, c'est toujours des sujets assez légers, l'immigration, hein, dans le chat. C'est quoi l'intérêt pour la droite d'accepter des migrants, demande Kekuj. Bah, je sais pas, il faut aller demander au Parti populaire espagnol. Je vais leur demander. Hola, ¿cómo está la derecha España? ¿Por qué? Etc. Tu leur demandes. Voilà, peut-être pour parce qu'ils estiment qu'économiquement, ça a du sens d'accueillir des travailleurs, je sais pas. C'est ce que semble dire Libération, en tout cas. Merci Andrea, merci Eternity, merci Funky Mouli. Vamos à la plaie, exactement, Iron Deal. La droite espagnole est pour parce que c'est ce que demandent les patrons, nous dit Tiklem. Il m'a goûté Shakira tout, si. Ah oui, vous voyez plus l'article, je vous le mets. Non, c'est pas fini, je suis en train de lire le chat parce que... Sur Twitch, si tu ne lis pas le chat, il faut arrêter de streamer en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en pensez. Alors. Orage Mordu, cette info est intéressante, je n'ai pas le chiffre en tête. Orage Mordu nous dit que la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, en Italie, a fait régulariser 400 000 personnes pour satisfaire les besoins économiques du pays. Et donc, Orage Mordu nous dit il faut arrêter les discours populistes et assumer le pragmatisme de l'industrie. C'est, je trouve ça très intéressant. Tu sais quoi, je vais aller vérifier ce chiffre que je trouve très, très intéressant. Hop. Alors, Mélanie, régularisation, ça se trouve en 2-2. Hein. Imagine Internet, aujourd'hui, vérifier la justesse d'une information, ça peut se faire très facilement. Mélanie, régularisation. Mais j'avais entendu des choses là-dessus. Ouais. Mais je n'ai pas le chiffre en tête. Voilà. Hop. Google me propose Mélanie, régularisation sans papier. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Hop. Effectivement, j'ai un article de décembre 2023 de France Info, par exemple. Ah bah ouais. Alors, rappelons que donc, Giorgia Meloni, c'est une figure de droite, disent ses partisans, d'extrême droite, disent ses adversaires. Elle a été, dans sa jeunesse, très séduite par la personne de Mussolini. Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni va faire entrer 452 000 travailleurs étrangers d'ici 2025, c'est même plus même. Voilà. Décision prise alors que de nombreux secteurs sont en crise. Élue, on se régale quand même. Hein. Élue sur la promesse de combattre l'immigration, Giorgia Meloni et son gouvernement ont annoncé la rentrée de 452 000 travailleurs italiens d'ici 2025 en Italie. La chef de l'extrême droite italienne promettait à chaque meeting de bloquer l'immigration. Pas très efficace. Hein. Un an après son élection, son gouvernement autorise pourtant ses quotas d'immigration légale les plus importants depuis 12 ans. Oh, merde, vous étiez déçus les électeurs alors. D'accord, ok. Donc c'est vrai. Intéressant. J'avais pas le chiffre en tête. Je vous lis sur le sujet. Merci Mélanie, Nouveau Média. Mignon, parce qu'il y a Anonyme 31 qui dit Orage Mordu, tu es sûr de tes chiffres? Et oui, Anonyme 31, on vient de les vérifier à l'instant. Et Orage Mordu nous a donné une bonne info. Merci, Nico Manga. Il y a Tchernozorus qui s'amuse un peu, mais comment Mélanie aurait fait preuve d'hypocrisie à des fins électoralistes? C'est pas chez nous que ça arriverait. Enchaînons, puisque dans une grosse demi-heure, je serai obligé de, non pas de vous abandonner, puisqu'on enchaînera avec MVP, mais de passer sur MVP. Alors, le dossier dans Libération, si vous intéresse, il est bien plus important que l'édito que je viens de vous lire. Parlons aussi de cette une de La Croix, cette fois, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, sur la protection des enfants d'influenceurs, pour faire simple. C'est-à-dire que La Croix rappelle qu'il y a 4 ans, une loi a été votée en France pour protéger un peu les intérêts des enfants mis en avant par les influenceurs. 4 ans après le vote d'une loi encadrant leur activité, les parents semblent mieux saisir les dangers liés à la surexposition de leurs enfants en ligne. Le législateur a donc posé un cadre il y a 4 ans pour protéger les enfants, une première loi en ce sens ayant été adoptée en 2020. De plus en plus d'internautes semblent limiter l'exposition de leur vie privée sur les réseaux sociaux. Enfants influenceurs, un début de prise de conscience. 4 ans après la promulgation d'une loi sur les enfants influenceurs, les parents semblent se conformer au cadre légal et mieux saisir les dangers liés à la surexposition de leurs enfants en ligne. Défécateur, ça fait 2 fois que tu fais la même blague. La 3e fois, promis, je la lirai. Tu l'as fait pendant le sommaire, tu l'as refait ici. Et donc, j'attends que tu le fasses une 3e fois. Je lis tout, je vois tout. D'un clin d'œil, je peux vous donner toute votre ancienneté de chat, chacun. Tu as fait un copier-coller, Défécateur ? Tu as fait un copier-coller ? Dis-moi. C'est un copier-coller ou tu l'as réécrit ? 4 ans après, bam ! 4 ans après la promulgation d'une loi sur les enfants influenceurs, les parents semblent se conformer au cadre légal et mieux saisir les dangers liés à la surexposition de leurs enfants en ligne. Tu l'as réécrite ? Bravo. Thiago Tanti, Kayden Correa, Ruby Gage, leurs noms ne vous disent peut-être rien, pourtant à eux seuls, ils cumulent près de 2,7 millions d'abonnés sur Instagram. petite particularité de ces trois stars des réseaux sociaux, chacun, aucun n'a plus de 6 ans. Ils font partie de ce qu'on appelle les enfants influenceurs, ces mineurs dont la vie quotidienne est mise en scène sur Internet, souvent exploitée à des fins commerciales. Malgré ma petite taille, je ne suis pas un enfant influenceur, je suis juste un adulte, mais petit pour ceux qui se posent la question. Voilà. Je ne suis pas concerné par cette loi. Oui, ils ont moins de 6 ans. Ouais. Outre ces comptes dont les enfants sont les héros, les parents influenceurs mettent aussi régulièrement en scène le quotidien de leur progéniture. Si ces contenus n'ont pas toujours un but lucratif, c'est quand même le cas de 3/4 de ces comptes. Voilà. Ces chiffres en disent long sur l'ampleur du marché lucratif reposant sur l'exposition du quotidien des enfants en ligne. Avant 2020, les parents avaient le champ libre pour publier ce type de contenu mettant en scène ces petits travailleurs des plateformes en ligne en l'absence de tout cadre légal. Jusqu'à ce que Bruno Studer, qui était député Renaissance, vienne combler ce vide législatif, promulguée en octobre 2020 la loi visant à encadrer l'exploitation commerciale des mineurs. Donc, dorénavant, chaque mineur de moins de 16 ans bénéficie dans ce domaine d'horaires de travail encadrés, d'un droit à l'oubli numérique qu'il peut exercer sans l'autorité d'un tuteur. L'activité d'un enfant influenceur tombe aussi sous les règles protectrices du Code du travail, ce n'était pas le cas avant. À l'instar des mineurs opérant dans le monde du mannequinat, les parents doivent désormais demander un agrément à l'administration. Pour toute collaboration commerciale, même l'apparition minime d'un enfant, d'un de ses doigts ou de ses pieds, il faut un contrat, confirme une employée d'une agence de communication dédiée au marketing famille qui collabore avec des influenceurs parentaux. En outre, une partie des revenus perçus par l'enfant doivent être remis à la Caisse des dépôts afin d'être bloqués jusqu'à la majorité de l'enfant. Peut-on pour autant dire que le texte a porté ses fruits, parce que ça c'est une loi, et qu'il protège mieux les enfants? Eh bien oui, c'est un peu la bonne nouvelle ce matin. Les choses se sont améliorées puisqu'avant, beaucoup de marques et de créateurs faisaient n'importe quoi. On voyait des enfants sur des comptes rémunérés sans contrat, explique une gérante d'une agence d'influence. Mais force est de constater que dans le monde des influenceurs, il y a encore loin de la coupe aux lèvres puisque les contrôles de l'inspection du travail restent marginaux. Au sein de notre agence, dit la dame, là, nos contrats enfants n'ont jamais été vérifiés depuis le passage de la loi et à ma connaissance, aucun influenceur n'a fait l'objet de contrôle ni reçu d'amende, ce que j'ai plusieurs fois fait remonter au pouvoir public. Donc, a priori, les comportements évoluent, mais on n'est pas sûr, puisque ce n'est pas mesuré, puisque l'inspection du travail ne fait pas de vérification et qu'on n'a pas de statistiques sur le sujet. Voilà. Mais plusieurs acteurs de cet univers disent que l'exposition des enfants a quand même changé sur les réseaux sociaux en France. Outre la question de la relation de travail désormais codifiée, se pose aussi la question du consentement, et ça c'est extrêmement important, du consentement de l'enfant à être exposé en ligne. La loi de 2020 dispose qu'une visite médicale doit être effectuée, qu'un certificat doit être délivré, prouvant que l'enfant est apte à apparaître devant une caméra. Mais comment s'assurer dans un contexte de manque de contrôle de l'assentiment du mineur à voir son image exposé? Un enfant est-il en capacité d'accepter, d'avoir le libre arbitre suffisant pour accepter d'exposer son image, quoi? Comme le dit Nespo, c'est compliqué de consentir à cet âge. Exactement. Même dans les cas où ses parents feraient preuve d'assiduité dans les contrôles, un enfant peut difficilement se rendre compte des conséquences de sa notoriété en ligne. Autre corollaire de cette exposition, le mineur exposé se retrouve au cœur d'une transaction financière commercial, qui peut être néfaste pour son développement psychique. L'enfant est une personne, pas une marchandise. Lui faire de la publicité aussi jeune peut lui donner l'impression qu'il n'a pas de valeur sans les likes. Depuis la loi de 2020, l'arsenal juridique visant à renforcer les droits des enfants influenceurs s'est musclé à deux reprises. Promulguée en juin 2023, la loi visant à encadrer l'influence commerciale prévoit une peine de 5 ans de prison et une amende pour les représentants légaux opérant sans contrat. Voilà. Une autre promulguée en février 2024 inscrit la notion de vie privée de l'enfant dans le code civil, une manière de sensibiliser les parents aux conséquences de l'exposition de leurs enfants en ligne. Moi, cet article m'a fait beaucoup réfléchir, c'est un sujet pourtant qui m'intéresse depuis très longtemps. Et en lisant cet article, j'ai beaucoup pensé à Malo, qui est mon grand, et qui a pris l'habitude de temps en temps de pop, parce qu'à une époque, je streamais à la maison, et donc les enfants avaient pris l'habitude de débarquer n'importe quand, dans le stream. Alors j'avais mis une scène pour masquer leur visage, et puis cette habitude qu'ils avaient de pop n'importe quand dans le stream s'est transformée en un Malo qui de temps en temps venait partager sa passion en live sur sa chronique Pokémon. Voilà. Alors oui, je fais pas d'OP avec eux, mais je me pose quand même beaucoup de questions là-dessus, Omar Sharif. C'est-à-dire que c'est pas une OP, évidemment, il y a pas de, y a pas, Mais ça, moi, je trouve que ça pose plein de questions. C'est-à-dire que au début, c'était un jeu, c'était un truc assez amusant, je trouve. Mais à un moment, quand ça devient une habitude, bon, on parle de, je sais pas, Malo, il doit, en vrai, il doit venir 4 fois dans l'année. Mais bon, quand il vient, pour en plus un contenu qu'il connaît, c'est-à-dire en gros, il vient vous parler de Pokémon, ou quand on l'a fait 2 fois, je crois, il vient jouer aux jeux vidéo avec moi, je lui cache le visage, et que pendant cette séquence, il y a des subs. Les subs dont je dis à la communauté, quand vous subez pendant que Malo est là, c'est pour Malo, bah ça pose plein de questions. Il y a Joliot qui dit, non mais moi c'est pas pareil, je suis en train de dire exactement l'inverse. Joliot, alors il faut que tu écoutes tes oreilles et que tu allumes tes neurones. Je suis en train de vous dire exactement l'inverse. Justement, je pense que ça pose un souci. Parce que du coup, il y a un aspect financier, et Malo qui est un enfant, je trouve que je le confronte assez tôt et beaucoup trop tôt à cette question de la rémunération. Donc en lisant cet article, en réfléchissant au sujet, qui est un sujet qui est très important, je pense qu'en vrai, c'est pas une bonne idée. Donc ça l'amuse, ça m'amuse, ça amuse les viewers, parce qu'on m'a jamais fait de remarques sur le sujet. Donc tout le monde trouve ça très très rigolo. Mais en fait, quand on réfléchit bien au sujet, je pense que il n'est pas en âge vraiment de comprendre les enjeux. Il n'est pas en âge de vraiment de façon éclairée donner son consentement, même s'il est volontaire, même si c'est ça part de lui, hein. C'est pas moi qui proposais aux enfants d'intervenir, c'est eux qui sont venus pop tout seul. Et en plus, il y a une question d'ordre financier où je lui dis, bah, tu vois, les subs pendant que tu parles, c'est pour toi, et je pense que c'est trop tôt pour lui confronter à tout ça. Donc, moi, je suis en train de m'interroger là-dessus, et en vrai, je pense qu'en fait, les enfants. C'est mon avis aujourd'hui. C'est qui ce Malo? C'est mon enfant. J'ai des enfants. Et je pense qu'en fait, je suis en train de m'interroger là-dessus, et je pense qu'en fait, je pense que les enfants n'ont rien à faire à être exposés sur les réseaux, sur Internet. Je pense que c'est un choix d'adulte. Si on veut s'exposer sur les réseaux, si on veut exposer son image, alors moi je ne montre pas les visages des enfants pour les protéger, bien sûr, mais quelque part, même si on ne voit pas son visage, il est là et vous l'entendez et vous parlez. C'est une décision d'adulte. Voilà. Voilà. Donc je pense que je vais lui laisser les subs qu'il a gagnés, mais je pense que je vais arrêter ça en fait. Parce que ça part d'une bonne intention, hein. Évidemment qu'il n'y a pas une volonté d'enrichissement de ma part là-dessus. Ça part pas de là. Mais même si l'intention n'est pas mauvaise, je suis pas sûr que ce soit le meilleur move en fait. Il a 8 ans, pardon, pour ceux qui posent la question. Il a 8 ans. Et il a son petit frère Solal qui a 4 ans. Donc voilà, je suis pas. Même si je pense, vous en êtes convaincu avec moi, l'intention n'était pas. Je sais défécateur, mais en fait, je pense que tu as raison. Pour toi, c'était une blague, mais moi, en fait, je me pose vraiment la question. Et donc, ça part d'une bonne intention et surtout pas d'une envie d'exposer mes enfants pour monétiser. Mais, et si on enlève l'aspect financier? Ben, du coup, ce serait pire parce que j'aurais l'impression de profiter de lui. Parce que quand Malo fait sa chronique, il y a des subs. Et ils sont pour moi. Je trouve que c'est pire. Donc, je trouve que c'est normal que quand il y a des subs, quand Malo parle, c'est pour lui. Mais du coup, on est dans une rémunération de Malo. Et c'est un enfant. Vous voyez? Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Donc, un avis sur un sujet, c'est un truc évolutif. On peut penser un truc un jour et puis réfléchir et lire des choses et échanger avec des gens et se dire finalement, c'était. Cette opinion doit évoluer. Donc, je trouve ça très très drôle. J'ai même récemment upgradé mon PC pour mettre une carte d'acquisition pour qu'on puisse brancher une Switch dessus pour pouvoir streamer avec Malo parce que j'adorais cette idée de pouvoir streamer avec Malo et partager des trucs avec lui. Et je suis en train de me dire que ben, il vaut mieux que je joue aux vidéos avec mon fils hors stream et partager ce moment avec lui, ça ne change à rien, sans l'exposer à un truc dont il maîtrise pas les tenants et aboutissements. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu la position sur laquelle je suis. Tout simplement parce que je crois que je n'avais pas assez réfléchi au sujet. Voilà. Et que collectivement, familialement, on n'avait pas réfléchi assez au sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était pas un truc pensé, c'était pas un truc prévu, c'était pas un projet. Je streamais à la maison, une porte, ça s'ouvre, les portes ne sont pas fermées chez moi, on rentre, on vient blaguer avec papa, on débranche la multiprise, on crache le stream, on vient dire des bêtises dans le micro. C'est très drôle, c'est des moments de partage. Et c'est chou, et on se dit, ah, c'est sympa. Et puis, tiens, bah viens, t'aimes les Pokémon, parle des Pokémon. Donc, on ne réfléchit pas. Et puis, un jour, il faut réfléchir. Et un jour, il faut se poser des questions au-delà du moment. Et donc, voilà. Et en fait, c'est en lisant cet article ce matin que j'ai pris du recul sur ma situation et en me disant, mais ce que tu fais, ça n'est pas la même chose que ce qui est dénoncé par la loi. La loi n'a pas été pensée pour encadrer ce que Samuel Etienne fait avec ses enfants, parce que clairement, c'est pas une volonté d'enrichissement. Mais ça m'a fait m'interroger sur mon truc. Voilà. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui par rapport à ça. Et donc, il y a des gens qui en blaguaient tout à l'heure, notamment Defecator, quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui disait sur le ton de la plaisanterie, Emalo dans tout ça. Et en fait, tu le disais en rigolant, mais en fait, moi, du coup, j'ai réfléchi assez sérieusement. Voilà. Donc, je vais plutôt jouer avec les enfants hors stream. À partir de quel âge ça te semblerait possible? Squeezie a commencé à streamer à 15 ans, par exemple. Bah, à partir du moment où il sera. Très bonne question, Defecator. Imaginons que mes enfants, dans l'adolescence, veulent commencer à streamer pour eux. 15 ans, t'es un petit bonhomme déjà. Hein, l'âge de raison, il est passé depuis un moment, tu peux commencer à te projeter. Si mon enfant de 15 ans, pour reprendre l'exemple de Squeezie, veut pour lui, streamer et créer du contenu parce qu'il pense qu'il a une histoire à raconter par rapport à ça, que c'est une passion. Le rôle du parent, c'est d'accompagner l'enfant dans ses passions, de l'encadrer, d'être comme un tuteur, un support sur lequel l'enfant puisse se développer. Et donc, si c'est vraiment sa passion, ben évidemment que je ne l'empêcherai pas de le faire. Mais 15 ans, 8 ans, c'est pas la même, hein. C'est pas la même. Voilà. Donc là, je pense qu'il n'est pas en âge de pouvoir le faire. Voilà. Bon. Voilà, pour ma petite remise en question sur ce sujet. Et pour le coup, c'est la lecture de cet article qui m'a fait ce matin réfléchir à ce sujet et me faire prendre conscience que j'avais peut-être pas assez réfléchi à la question. J'accélère un petit peu avec des trucs plutôt sympas. Il y a plutôt des trucs mignons dans l'actualité ce matin. Avec ce dessin animé français, ce film d'animation français dont tout le monde dit ce matin que c'est une grande réussite. Là, j'ai un article du Figaro, mais le Parisien dit que c'est formidable. Libération également. Angelo dans la forêt mystérieuse, ça s'appelle. Un petit pousset très moderne avec une intrigue de conte de fées. Ce film d'animation plonge dans le bain bouillonnant de la pop culture, drôle et réjouissant. Je remercie Camote, je remercie Phoenixor, je remercie 18h30, je remercie Waxen pour les soutiens. On va aller voir le trailer, bien sûr, la bande-annonce. Mais lisons d'abord le petit article. Il y a beaucoup d'articles sur le film aussi, Monsieur Aznavour, mais j'étais un peu plus hypé par ce film d'animation qui s'appelle donc Angelo dans la forêt mystérieuse. L'histoire, il était une fois Angelo, un garçon de 10 ans à l'imagination débordante, avec sa tête carrée et ses lunettes du même style, le tout surmonté d'une houppette à la Tintin. Il embarque le spectateur dans une périlleuse aventure. Pendant que sa famille s'affaire dans la cuisine pour le petit déjeuner, le mouflet rêveur s'imagine un double héroïque musclé comme un Rambo de pacotille qui se lance à la recherche du Graal d'éternité quand sa mère verse une cascade de lait dans un bol de céréales. Donc des céréales d'abord et le lait ensuite, bien sûr, ça tout le monde le sait. Lui se voit comme aventurier, noyant son aventurier dans les chutes rugissantes d'une jungle hostile. Donc un petit garçon qui a beaucoup d'imagination. Dans ce dessin animé Angelo dans la forêt mystérieuse, le duo Vincent Parronneau et Alexis Ducor revisite le petit pousset, le peinturlurant de couleurs fluo, le modernisant à la mode des blockbusters, doté d'une inventivité de chaque instant, trépignant et gorgé d'humour. Ce film a eu beaucoup de succès, notamment au festival de films d'animation d'Annecy. Angelo dans la forêt, écrit ici le Figaro, fait la démonstration que l'animation française peut largement tenir la dragée haute à nos voisins d'outre-Atlantique. C'est audacieux, c'est hilarant, c'est merveilleux, c'est diablement attachant. Waouh ! Et ce matin, toute la presse dit ça. Là, vous avez un article dans Le Parisien, Libération aussi. Voilà. Donc moi, j'ai envie d'aller voir la bande-annonce parce que du coup, je suis un peu hypé. Donc on va mettre bande-annonce. Angelo. Dans la forêt mystérieuse, je l'ai trouvé. YouTube, ok, je l'ai. Bande annonce. Ok. Ignorer la pub. Ok, je l'ai. Hop, hop. Hop, normalement, si je vous mets ça et ça, on est pas mal. On est pas mal. Let's go, il y a du son. Vous êtes prêts? Un petit trailer du minute 50.
Angelo présente les aventures d'Angelo l'aventurier.
Je vais devoir traverser cette jungle hostile où le danger est partout.
Angelo, dépêche-toi de déjeuner et va te brosser les dents. Salut Sophie, ça va?
Pardon, je vous la remets parce que j'étais en train de monter le son et j'ai raté les premières secondes. Je vous ai monté un petit peu le son. Let's go.
Angelo présente les aventures d'Angelo l'aventurier.
Je vais devoir traverser cette jungle hostile où le danger est partout.
Angelo, dépêche-toi de déjeuner.
Trop chou.
Salut Sophie, ça va?
Tati a appelé. Mémé a fait un malaise. Il faut se dépêcher d'aller la voir.
Pause pipi pour tout le monde.
Allez, on y va. Tout le monde est là?
Ouais.
Revenez! Vous m'avez oublié! Je vais finir ma vie au milieu des ordures.
Écoute la petite voix au fond de toi. Elle te dira toujours ce que tu dois faire.
Un aventurier retrouve toujours sa mémé.
J'arrive, mémé!
Mémé habite au sud. Je le sais parce qu'il fait toujours chaud quand j'y vais.
Attends-moi, je viens avec toi.
C'est quoi cet endroit?
Au boulot.
Vous êtes un ogre?
Je suis agent immobilier.
Ça explique votre beau costume.
Il faut inspirer confiance.
Je ris parce que j'ai un message dans le chat que je trouve trop mignon. Attendez. Bon, c'est chou, hein. C'est drôle. Alors, hier, on était à la PJW avec Joe. On a fait le live qui était assez sympa. Et à un moment, il y a eu parfois, il y a des micro-coupures de connexion. On perd la connexion. Ah, attendez, c'est reparti, là. Bougez pas. On perd la connexion. Et du coup, Pépin reprend la main en régie et ça coupe pas le live, mais on a des petites coupures. Et à un moment, on a eu une séquence que vous avez ratée hier, qui était trop mignonne. Il y a un jeune homme qui est venu me voir, un beau gosse, voilà, qui est venu me voir. Et attends, je suis en train de retrouver parce que je vois que tu es dans le chat. Tiens, je suis en train de te retrouver. Où es-tu, mon ami? Attendez, c'était pendant qu'on lisait la bande-annonce. Ah, où est-ce qu'il est? C'était le sosie de Grimm. Non, pas un bolos, un beau gosse. Attends, je le cherche. Où est-ce que tu es? Il y a eu tant de messages que ça pendant la petite bande-annonce que j'arrive pas à le retrouver. Ah, Nitrax. Samuel, c'était moi hier, le monsieur à la PJW qui ressemblait à Grimm. J'étais trop content de te voir, merci beaucoup. Et ça, vous l'avez raté parce que c'était pendant une micro-coupure. Et à un moment, il y a un beau gosse qui arrive, voilà. Et c'est Grimm. Voilà, ben, beau, voilà. Mais en un peu plus jeune et en plus beau. Voilà. Et c'était vraiment drôle cette séquence. Et en fait, vous l'avez raté, du coup, mais il est là. Il est là. Dans le chat. Voilà. Vous en pensez quoi cette bande-annonce qu'on a vue à l'instant là? Pas mal, non? J'ai pas dit que Grimm était dégueulasse. J'ai dit que ce jeune homme était plus beau que Grimm. Mais Grimm est peut-être très beau. Donc, peut-être que le jeune homme que j'ai croisé hier était plus beau que beau. Eh oui. Alors, vous êtes plusieurs à avoir dit que le petit garçon, il avait un peu la voix de Malo. Alors, je me rends pas compte. Comment ça, Grimm est pas beau? Ça a l'air d'être pour les très petits. Je suis pas sûr, en fait, Merwin. Excellent. Prochain film que je vais voir avec mon fils, me dit Ibino. Ah, vous êtes plusieurs à dire que vous pensez que c'est pour un public jeune. Ah, alors, c'est pas ce que semblent dire les articles, en vrai. Moi, je vais aller voir ce film. Notamment, la DA est vraiment très belle. Et puis gardons un petit cœur d'enfant aussi. Colin Graphique dit c'est aussi un. Le sujet, c'est la perte d'un proche, hein, parce que vous avez une grand-mère là, qui est malade. Donc, universel, pas d'âge. Oui, je pense que c'est vrai. Comment ça, Framboise, c'est pas ton style de film? Ça a l'air trop bien. Et toi, tu es. Mais oui, comme dit Exutoire, mais toi, tu es jeune, Samuel, dans ta tête aussi, tu as même un TikTok. Je suis un TikToker, on n'oublie pas que je suis un TikToker. Je ne comprends pas comment, en quelques mois, mon compte TikTok a pu dépasser mon compte Twitter. Ça, je n'ai pas compris ça. Voilà, je vous savez que dans quelques jours, on fera un petit stream. J'ai hâte qu'on ait ce stream dans quelques jours, dans quelques semaines, qu'on réfléchisse ensemble à la meilleure manière de célébrer le 1 million de followers qui va être atteint par cette chaîne Twitch bientôt. Je ne comprends pas comment on a pu arriver à ce chiffre, à ce nombre, mais j'en suis très content. Donc, on fera un petit stream pour essayer d'imaginer comment on peut célébrer ce passage aux millions de followers. Donc, est-ce qu'on fera un stream de 24 heures sur Valo? Est-ce que j'irai courir tout nu sur les Champs-Élysées? Je ne sais pas, c'est un truc à déterminer. Voilà. Mais il y a un monde où mon compte TikTok va à un moment dépasser ma chaîne Twitch, quoi. Ça, je comprends pas ce qui se passe avec TikTok. C'est un truc. Moi, je suis beaucoup sur TikTok, je scrolle beaucoup parce que je trouve qu'il y a des contenus qui sont extrêmement intéressants et parfois pas du tout écervelés, quoi. Je vois beaucoup d'artistes, des musiciens, des chanteurs, des amoureux de poésie, des cuisiniers, des là, je suis allé rencontrer un souffleur de verre qui est sur TikTok. Il y a plein de choses intéressantes. Mais je suis assez fasciné par cet instrument. Fais comme Michou avec un stream de 48 heures on choisit ta vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait Michou? C'est ses viewers qui choisissent sa vie pendant mais une semaine, lui. Qu'est-ce que vous proposez comme idée? Une pool party? Ok, pool party, très bien. Une grosse soirée avec plein d'invités? Un stream LOL? Ah non, c'est trop dur, LOL. Apsi, les bots, Samuel, désolé de te le dire. Eh non, mon chouchou. J'ai demandé à Twitch France, parce que j'ai eu un énorme raid de bots il y a quelques semaines qui m'a fait passer le million déjà. J'ai demandé à Twitch France de me virer les... J'avais pris 100 000 followers d'un coup, de me virer ces 100 000 followers qui n'étaient pas des vrais followers. Et j'ai demandé à Twitch France d'analyser mon compte Twitch et de virer tous les bots de mon compte Twitch. Donc le chiffre que vous voyez actuellement, les 973 195 followers, pour répondre à la question de Apsi, ce sont des vrais, puisque j'ai demandé à Twitch France, ils ont des instruments pour détecter les bots, de virer tous les bots. Donc ils m'ont enlevé les 100 000 bots là, qu'on avait détectés, et quelques autres aussi. Et donc c'est un vrai. Eh ouais, et voilà. Sauf Nightbot, on a gardé Nightbot par contre. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu traverses les villes de France pendant 2 mois. Tu fais un stream d'un million de secondes. Ça fait une dizaine de jours. Oh! Attends, pas mal ça. Attends, 1 million de secondes. C'est pas con ça. Attends, 1 million. Vous vous rendez compte que ça fait 1 million, par 60, ça fait 16 666 minutes. Par 60, ça fait en gros 277 heures. Divisé par 24 heures. Ça fait 11 jours. On fait 11 jours de stream. Ouais, ça fait un peu comme Michou finalement. Un hot tub, hein, je sais pas. 24 heures de The Witcher 3, une soirée dans ta cave, une soirée loup-garou. J'ai pas vu Clélia, attends, je vais aller voir ton historique, j'ai pas vu ta question. J'y vais. Qu'est-ce que tu dis ? Paul Watson, j'ai pas eu l'occasion d'en parler encore, Clélia, j'ai aucun problème de me positionner là-dessus, mais j'ai pas lu d'article encore parce que j'ai manqué des jours de revue de presse au moment où l'affaire Paul Watson a été évoquée par les journaux et j'ai hâte de pouvoir l'évoquer le jour où je trouverai des articles, mais c'est sûrement un truc qu'on va évoquer. Pardon, j'avais pas vu ta question. Un nouveau tatouage? Un stream d'une semaine? Faire l'hélicobite sur les Champs-Elysées? C'était une blague, le million de secondes, mais en vrai, c'est pas con. En vrai, je trouve que c'est pertinent, moi. Tu te présentes pour de vrai la présidentielle? Ok, on verra. On fera un stream pour ça. On fera un stream pour ça. Et puis, on va finir avec un peu de jeux vidéo, parce que je dois mettre en pause dans quelques minutes, là, à 45, pour remonter dans le studio d'MVP. Je vous rappelle rapidement le sommaire du MVP. De 12h tout à l'heure, puisque deux fois par mois, il y a MVP, Ma Vie Pro, une émission qui se penche sur l'emploi, sur le travail, sur les différents secteurs d'activité. Pourquoi ? Pour donner des idées à ceux qui recherchent, qui réfléchissent à leur avenir, ou à ceux qui travaillent déjà, mais qui ont envie un petit peu de changer de secteur d'activité. Ça me semble plutôt sympa de réfléchir à ça ensemble. Et hop, vous avez ici l'émission de tout à l'heure sur les métiers de la mort. Hein, on s'est penché sur travailler à l'étranger. On s'est penché sur les métiers passion. On s'est penché sur quoi encore ? J'ai oublié. Vous vous rappelez des derniers MVP ? Là, c'est les métiers de la mort, parce que c'est la Toussaint. Et on reçoit, comme à chaque fois, Ludovic B, qui est notre expert métier, qui va nous parler d'un métier qui est en lien avec la mort, qui est notaire. Julien Méniel, qui est un ancien infirmier, qui est un créateur de contenu, et qui va nous parler justement du rapport des soignants à la mort. Voilà. Sabrina, qui est une tiktokeuse, mais surtout qui est une conseillère funéraire, autant dire une croque-mort. Là, je pense qu'on va, elle a plein d'anecdotes à nous raconter. Voilà. Et Edith Préto, rien à voir avec la mort, c'est juste qu'à chaque fois, on a un grand invité qui vient nous parler un petit peu de son parcours de vie, de son parcours professionnel. Et donc, juste à la fin de l'émission, on aura Edith Préto, le chanteur, l'artiste qui vient dans l'émission. Et ça, c'est à 12h. Pas mal, hein ? Ouais. Et donc, il y a eu travail à l'étranger, il y a eu les métiers passion. La question du handicap, Alexandra, tu as raison, dans une émission qu'on avait intitulée « Est-ce que tout est possible dans le monde professionnel ? Est-ce que juste la force du travail suffit ? Ou est-ce que ça ne dépend pas de plein d'autres facteurs ? Origine sociale, origine géographique, question du handicap, chance, etc. » Et la réponse était évidemment « Bien sûr que oui ». Voilà. Donc du coup, ça va être la quatrième ou la cinquième émission. Et j'ai plein de beaux invités qui arrivent, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ah oui, bien sûr, Camille, tu as raison. Il y a aussi l'émission sur l'IA, on avait fait sur les conséquences de l'IA sur l'emploi et sur le marché du travail. Vous avez une meilleure mémoire que moi. Ouais. Ok, bon les amis, hop, je vous montre les derniers articles. Alors, la Paris Games Week, je pense que vous êtes au courant. Voilà, ça commence aujourd'hui. Officiellement. Hier, c'était l'avant-première. Je vous ai fait un joli stream. C'est en replay sur ma chaîne Twitch entre 10h, 17h et 20h30. Hein 17h et 20h30. Le replay sur ma chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube aussi. Ça va être posté par Mathieu aujourd'hui. Et là, on a le constat du Figaro que la Paris Games Week ouvre ses portes dans un marché du jeu vidéo les plus moroses. Est-ce qu'il me reste un petit peu le temps pour le lire ? Oui. Non. Je voulais aussi vous parler de celui-là. Mais en fait, je vous résume l'article et je voulais avoir votre avis là-dessus. PGW est très très bien, mais dans un contexte où les ventes de jeux vidéo ne sont pas folles. Alors, il y a le fait que c'est des années qui suivent la période de la crise sanitaire où il y a énormément de ventes en la matière. Donc, du coup, derrière, il y a une espèce de trou d'air au niveau des ventes de jeux vidéo, parce qu'il y a une surconsommation pendant la crise sanitaire, et avec les plans sociaux que ça implique dans ce secteur. Et puis certains s'interrogent, certains se demandent s'il n'y a pas une surproposition, une surproduction de jeux vidéo aussi. Je voulais votre avis là-dessus. Les productions sont-elles adaptées aux nouvelles attentes du public ? Y a-t-il une surproduction ? Est-ce que les Forever Games, les jeux en ligne à succès mis au jour depuis des années comme Fortnite, Minecraft, Roblox, détournent l'attention des consommateurs ? Il y a un créateur qui lance une autre piste. Nous assistons à un effondrement de la créativité dans le jeu vidéo qui est dû à l'envolée des coûts de production et donc une prise de risque de plus en plus réduite. Voilà. Quel est votre avis là-dessus, vous ? Ouais. World estime qu'il y a une baisse de la créativité, ouais. Surproduction et sous-qualité aussi, ouais. Émile. Trop de jeux et trop cher, Loulou. Je trouve que c'est très biaisé avec les nombreux abonnements qu'il y a aujourd'hui, nous dit aussi Arat. C'est parce qu'il y a trop de jeux, c'est qu'on n'a pas le temps de jouer à tous ces jeux. Alors, fais-moi un steak. Peut-être, moi, je suis un peu de l'avis de fais-moi un steak. Peut-être que je me trompe complètement. Vous savez que, pour le coup, moi, je découvre plein de jeux via Samplay ou via mes rencontres avec des, des streamers, des streameuses, ou à la PJW, par exemple, j'ai vu plein de jeux auxquels j'avais envie de jouer, mais littéralement plein de jeux, quoi. À chaque stand, il y avait des jeux sur lesquels j'avais envie de passer plusieurs journées à chaque fois. Donc comment tu fais, quoi ? Voilà, après, dans le secteur de l'édition musicale, de la littérature, bah c'est pareil, il y a plein de romans qui sortent sans arrêt, plein de disques, et on ne parle pas forcément de surproduction, quoi. Mais après, un livre, si tu lis vite, en 2-3 heures, tu l'as mangé. Un jeu vidéo, 2-3 heures, tu fais le tuto, quoi. Donc, si tu veux, si t'aimes vraiment un jeu, tu vas y passer des centaines d'heures, on est d'accord. Est-ce que tu vas écouter le même morceau d'un artiste ou même un album pendant des centaines d'heures ? Donc, il y a peut-être un truc qui se joue à ce niveau-là, peut-être, quand même. T'en pensais quoi ? Les jeux indés montrent clairement que la créativité existe encore, tu as raison. Deux, trois heures le tuto pour Papy Sam seulement. Oui, c'est vrai que je ne suis pas très rapide, moi. Vous avez raison. Enfin, moi, un tuto, c'est 2-3 heures. Mais c'est parce que je parle de très loin, quoi. Merci, Dame Zuit. Merci pour l'abonnement Faire la Commu et pour le Prime. Merci, Arasam. Merci, Linalo. Merci, Miss Dragon. Merci, Kamod. Merci, Phoenixor. Les gens sont devenus mono-jeux aussi, les communes sont très fidèles à leur jeu. Je ne serai pas à la PJW dans les prochains jours, Casa Diablo, parce que je pars retrouver demain matin ma famille qui est en vacances, qui me manque beaucoup et avec qui je vais passer 4 jours. Ouais. Mais moi, vraiment, c'est très frustrant pour moi. La PJW, hier, j'ai vraiment vu plein de jeux sur tous les stands, auquel j'avais vraiment envie de consacrer plus que des heures, quoi, des jours. Et je me dis, mais en fait, quand tu es amateur de cet univers, tu ne peux pas satisfaire ta curiosité, quoi. Merci du bon prompton. Merci T-Bay. C'est impossible. Vous aussi, vous avez cette frustration ? Et on parle encore que des grosses licences, que des gros jeux, que des gros studios, sans compter la forêt fascinante de tous les jeux indés, quoi. Vous aussi, vous avez ça ? Cette frustration ? Il y a Guchemet qui dit « Non, moi, je joue qu'à LOL. » Moi, c'est un truc que je découvre, là. Et puis, un dernier mot dans les échos, une pleine page consacrée au succès de Pull Up, l'éditeur français de jeux vidéo qui voit la vie en rose. Pourquoi ? Parce qu'il a lancé début septembre un jeu qui cartonne, qui est énorme, c'est un énorme succès. Warhammer Space Marine 2, énorme succès. Alors moi, je n'ai pas joué à ce jeu. J'ai très envie d'aller voir quand même le trailer de Warhammer, parce que je sais que c'est un énorme succès. Et je voulais avoir votre avis sur ce jeu, Warhammer. Voilà. On va regarder le trailer, je l'ai là. Et après, donnez-moi votre avis sur ce jeu, parce que j'ai l'impression que c'est encore un jeu auquel il faut que je joue, quoi. C'est un banger, vous me dites, oh, let's go. Ok, je vous le mets là. Toc. Ok, trailer de Warhammer. C'est parti. Je vais enlever le son, bien sûr. Let's go.
His name, I will fight.
Ouais, c'est un jeu de guerre, quoi. Ok, bon. Alors, attendez, peut-être c'est pas mon type de jeu, je sais pas, mais... Ok, donc l'article me dit que c'est un succès gigantesque, ça, qui rapporte des centaines de millions au studio. Et ok, la bande annonce est cool, mais pourquoi il est si réussi ? L'univers de Warhammer, à la base, a beaucoup de fans, d'accord ? Non, je peux pas dire ça, Samuel Etienne. Je suis passé à côté, là. La guerre, c'est pas ton truc. Tu passes tes soirées à planter des bombes, ça ? Mais pas du tout, Poupouto. Pas du tout, je ne plante pas des bombes, moi. Je plante des spikes. Parce que Henry Cavill y joue, parce que Warhammer, c'est une licence énorme, parce qu'il est très fidèle au lore. C'est une très grande licence, faut que j'essaye. Alors, tout le monde n'est pas convaincu. Oui, t'as raison Alexandra, je vais être en retard, je vais pas être maquillé. C'est pas grave, je vous lis. C'est une très grande... D'accord. C'est une licence légendaire, c'est cathartique. C'est fun, zéro prise de tête, zéro politique. Ça me plaît bien, Tiga, ce que tu dis, le Novenois. D'accord, ok. Bon, ben, ça s'essaye, ok. Il reproduit la sensation que tu as avec le jeu de plateau. Ce serait très rigolo que tu y joues. Ok. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait. Alpha Cast, il aime bien. Henry Cavill, c'est vraiment passionné de Warhammer ? Waouh. Wow. C'est exactement ce que je vous dis. Oui, le MVP, j'oublie pas. On va venir le chercher de toute façon. Hop. Effectivement, à 12h. Oh oui, normalement, c'est à 45 qu'on vient me chercher. Bon, bah, je vous abandonne. Je vous abandonne. Un petit peu de maquillage, je pense. Voilà, je passe faire un petit pipi, je mets la veste et on se retrouve et live avec Michou, effectivement, de 17h à 23h. Je serai sur la chaîne Twitch de Michou.